jusqu'à midi, le Point de Max.
Bien, bonjour, salut, j'espère que vous allez bien. C'est Pascal qui remplace Max aujourd'hui. J'espère qu'il va, lui, en profiter amplement de ses petites vacances. Hein. Il a décidé d'aller très, très loin. De l'autre bout, du côté d'Ottawa. Il traite notre Max à aller voir plein de shows. Puis c'est ce qui rend très crédible Max Larouche quand il nous parle, justement, des spectacles qu'on peut voir un peu partout dans le monde. Mais... je le sais que ça vous déstabilise aujourd'hui. Ne le soyez pas trop. On va toujours parler d'actualité. On va même avoir nos collaborateurs réguliers. Puis déjà, ben, je vois que vous êtes corrects. Parce que sur Twitch, les salutations sont commencées. Donc, twitch.tv/blvd/fm. Salut tout le monde. Et vous pouvez toujours communiquer avec nous. C'est facile, hein? C'est le même service texto. Chaque jour, c'est 88-971-1021. Et pour ceux qui ont envie d'être un peu plus intimes, vous pouvez signer votre nom. Puis des fois, on se met à converser avec vous. En cette, pour vrai, belle journée, ça a tout à fait changé. Le scénario est passé de vent assez catastrophique en pleine nuit. Des gens qui se faisaient coiffer à la sortie de leur maison par tout simplement les bourrasques de 120 km/h. Oui, c'est ce qu'on a touché dans la province, dans certains secteurs. Mais ici, à Québec, il y a eu une accalmie. Tu veux, veux pas, en ce moment, je vois... alternance soleil-nuage, il y a même des percées de soleil qui sont assurément très bonnes pour notre morale. À moins 2 degrés, c'est pas mal le scénario que je peux vous offrir aujourd'hui. Donc, 60 % de probabilité d'averse de neige, mais oui, les bourrasques restent, les bourrasques de ce matin, mais vraiment moins pire tout au long de la journée. En Beauce, je vous salue par exemple, et ça a secoué Chaudière-Appalaches pour à peu près ce matin, ces bourrasques-là. On n'est pas ceux qui sont le plus touchés, mais oui, il faut le dire, il y a des adresses qui ont perdu l'électricité. On est à plus de 300 000, 321 000 même foyers qui ont manqué d'électricité et qui en manquent toujours en ce moment, partout dans la province. On va parler dans quelques instants à Émiliane Bacon, qui est porte-parole du côté d'Hydro-Québec, sur ces pannes électriques-là. La capitale nationale, ça ne cesse d'augmenter. On est à 34 000 adresses sans électricité. C'est vraiment la Jacques-Cartier qui paie encore. Sinon, t'as Cap-Rouge qui en manque énormément aussi. Ça s'est résorbé quand même. C'est vraiment Québec, Ouest, le Vanier, tout ça, qui est toujours touché. C'est un peu les mêmes endroits que lorsqu'on a eu la tempête de verglas dernièrement. Faut faire quand même attention, là, ça va se régler dans la journée, c'est ce qu'on semble comprendre, mais on va aller jaser avec les experts dans un instant. Ça brassait aussi sur le territoire de la ville de Québec et ça brasse toujours parce que je viens de parler à ceux qui sont porte-parole au niveau de la Sûreté du Québec et c'est une alliance entre la Sûreté du Québec et le service de police de la ville de Québec. Mais dans le trafic de stupéfiants, on a une opération importante qui se déroule en ce moment et qui a commencé très tôt ce matin. C'est un réseau lié aux Hells Angels qui a été visé par une opération. Donc, on a procédé et on procède actuellement à plein d'opérations policières dans la région de Québec et ça vise principalement ces membres-là du réseau de trafic qui est lié aux Hells. Et c'est l'Escouade nationale de répression du crime organisé. C'est le NRCO et la police de Québec qui sont dans le dossier, comme je vous disais. Donc, les arrestations, là, ça continue de survenir et ça continuera tout au long de la journée. On a une vingtaine de policiers, principalement des enquêteurs, des patrouilleurs qui procèdent aux arrestations. Il y a des perquisitions aussi. On n'est pas capable de vous dire quoi en ce moment. C'est normal. On va être capable de faire un constat au niveau de la fin de la journée dans l'après-midi. Mais parmi les lieux perquisitionnés, si vous étiez dans l'arrondissement de Charlebourg il y a quelques heures, vous avez vu notamment un immeuble à logement de la rue des Loutres qui était prise d'assaut par les policiers. Il y a plusieurs organisations aussi qui ont décidé de s'attaquer directement aux têtes dirigeantes du crime organisé. Et c'est pour ça que ça brasse. C'est un bilan de l'événement qui sera diffusé, comme je vous disais, plus tard dans la journée et même au courant des prochains jours parce que c'est vaste. Très, très vaste. Sinon, il y a 4 agents correctionnels et un chef d'unité qui ont été agressés par un détenu. Ça s'est fait hier à la prison de Québec. Et cet incident-là, ça nécessitait le transport de plusieurs employés à l'hôpital. L'altercation était assez sauvage. Heureusement, il n'y a pas de vie en danger. Les 4 agents blessés ont été soignés pour des blessures mineures et le détenu a été placé sous haute surveillance. Mais comment ça se peut, ça? Comment on est capable, à 4 agents de sécurité et un chef d'unité, d'avoir le dessous sur un détenu? Donc, le détenu, là, il était pas mal en train de mener la bagarre. C'est ce qu'on a compris. Il a réussi à blesser des employés. Ça donne quoi comme perception de nos services puis nos institutions carcérales? Il y a, oui, la perception, il y a l'image de tout ça, mais il y a aussi clairement quelque chose auquel on doit s'attaquer, qui est la sécurité des agents correctionnels puis la hiérarchie dans les prisons. Il se passe quelque chose, que ce soit les drones qui arrivent avec armes, cellulaires, drogues, et qui donne énormément de pouvoir aux détenus, que ce soit aussi la façon dont on se regroupe et qu'on s'organise à l'intérieur même des murs de la prison quand on est détenu, et c'est aussi peut-être le manque de formation. Puis on a abordé tout ça avec Mathieu Lavoie un peu plus tôt ce matin dans l'émission avec Yannick Marceau. Puis je vais vous représenter des moments de cette entrevue-là qui est super, super éclairante, mais je dirais même, puis ça c'est une opinion personnelle, qui est un peu triste. On peut déplorer ce qui se passe actuellement dans nos services en justice, en droit et même dans nos prisons parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir eu un relâchement puis qu'on n'a pas trouvé où est-ce qu'on met la ligne entre une intervention qui est liée aux droits de la personne puis où est-ce que ça s'arrête aussi les droits de ces détenus-là. Hein? Alors, on va pouvoir éclairer le tout. Je pense, en continuant de poser des questions, mais on n'a pas l'air d'avoir assez de budget pour pallier à la situation, puis ça inquiète beaucoup de gens. Nouvelle menace de saisie contre l'homme d'affaires Jean-Noël Sarto-Lacroix. Il y a quelques jours, il a placé Armoire PMM en faillite et il a fait une vidéo hein, sur les réseaux sociaux. Il voulait éviter de payer quelques 500 000 $ à la régie du bâtiment. Ça, c'est comme ceux qui font bien de l'argent puis qui commencent à l'exposer un petit peu partout sur les réseaux sociaux puis qui en font des genres de spectacles puis qui dépensent à tout vent. Ça, dans l'intimité, c'est une chose. Mais quand tu mets ça sur les réseaux sociaux, ça peut ouvrir les yeux, entre autres, au fisc. Et c'est ce qui est arrivé. Le Journal de Québec a appris que le fisc réclame maintenant à Sarto-Lacroix des impôts impayés entre 2021 et 2024. Donc, Revenu Québec a inscrit le 27 février une hypothèque légale de près de 485 000 sur une résidence de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ça appartient à Marie-Louise Monast, qui est la conjointe de Sarto-Lacroix et la résidence visée bien, appartenait jusqu'à récemment à une compagnie de numéros dirigée par cette femme-là. Puis là, on apprend plein de nouvelles petites choses qui semblent être éclaircies de la part du fisc. Et Jean-Noël Lacroix a répondu au Journal de Québec que c'était une bien mauvaise nouvelle, mais que c'est un combat sans fin. Oui, bien alors, on va suivre ça dans l'actualité, mais je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va en entendre parler de Sarto-Lacroix. Je vous disais qu'on allait la recevoir. Elle est au bout du fil. Oh, elle a raccroché. On va voir si elle va rappeler dans quelques instants. Oui, c'est le cas. Donc, elle est au bout du fil. Elle s'appelle Émiliane Bacon. Elle est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour, Émiliane.
Oui, bonjour.
On est en onde en ce moment à boulevard 102.1. On veut faire un petit récapitulatif des pannes électriques. Là, on voit qu'à la grandeur de la province, quand même un scénario important. On est au-dessus de 300 000. Ça ne cesse de monter. C'est dû au vent qu'on voit un peu partout dans les régions.
Oui, tout à fait. On parle de rafales là, qui ont commencé cette nuit autour de 70 km/h. Puis en fait, le pic est attendu à 11 heures, là, donc c'est pas terminé. Donc c'est sûr que ces vents-là, ben ça fait tomber la végétation sur notre réseau, donc ça cause des pannes. Là, donc c'est à la grandeur du Québec, là, principalement, ben Montérégie, La Nature, Laurentienne, Montréal. Là, puis c'est ça, c'est vraiment les vents là qui sont la cause là, principale. Là.
De tout ça. Capitale nationale, on n'y échappe pas. On est élevé depuis 4 heures, nous, du matin, l'équipe du matin ici à Boulevard. Puis ça ne cesse d'augmenter. On est à 28 700 adresses sans électricité. On a l'impression que ça ne se résorbera pas de sitôt. Est-ce qu'on doit encore attendre, même si les vents se sont calmés ici?
Ben c'est sûr qu'on parle de 30 000 environ. Là, c'est surtout le secteur ouest, aéroport, Loretteville, qui touche Québec, surtout Portneuf, Jean-Cartier aussi, là, les secteurs plus boisés. C'est sûr que on a beaucoup, beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain. Bon, pour la grandeur du Québec, on parle de 550 équipes, donc plus de 1 000 personnes là, qui sont au terrain. C'est sûr qu'on peut pas parler de... Bon, le Infopan, là, normalement, est assez clair là, sur le délai de rétablissement. C'est sûr que si ça augmente encore, on peut s'attendre à un délai plus haut, mais pour l'instant, là, on n'est pas, on n'a pas peur de que les pannes soient résorbées d'ici la fin de la soirée, là, c'est sûr.
OK, donc on peut s'attendre à ce que d'ici l'heure du souper, on retrouve l'électricité dans la capitale nationale. Est-ce que c'est le même scénario en Chaudière-Appalaches où on est à 8000 adresses sans électricité?
Oui, même chose. C'est surtout le Binière là, qui est le point chaud en ce moment, un peu à Appalaches aussi. C'est ça, les équipes là, sont vraiment déployées là, à la grandeur de la région. Donc, on s'attend que ça soit résorbé là, le plus tôt possible.
Question qui est souvent posée dans ces moments-là. T'sais, on parle de vent quand même assez important. Je pense que la majorité des gens ont été réveillés cette nuit par l'ampleur du vent. 120 km/h dans certains secteurs de la province. Là, on parle souvent des mondages, de mettre les fils sous la terre. C'est-tu la principale raison du pourquoi on voit et on a de plus en plus de pannes au Québec?
Mais c'est sûr qu'on investit énormément là, dans la coupe, dans le déboisement également. Là, on parle à hauteur de 165 millions là, pour l'année 2025. Donc, on investit massivement là, pour dégager nos lignes d'année en année. Puis le budget a augmenté là, dans les dernières années justement pour améliorer la qualité de service. Puis c'est oui, c'est bien beau de vouloir enfourir les fils, mais c'est pas non plus la solution. C'est sûr que c'est des coûts très, très élevés. Puis aussi, c'est très complexe parce que le problème se trouve sous terre. Donc, bon, infiltration d'eau, les racines aussi qui peuvent atteindre nos fils. Donc, quand il y a un problème, c'est sûr que c'est plus complexe et plus long à résorber. Donc, c'est pas nécessairement la solution là, la plus pertinente là, pour répondre à ces pannes-là. Là. Donc, quand c'est aérien, bien, c'est sûr que c'est plus facile d'identifier bon, un arbre ou une branche qui est tombée. Donc, les pannes, la plupart du temps, sont moins longues quand sont identifiés là, de façon sur les fils aériens. Là.
On est avec Emiliane Bacon, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Ça serait un peu stupide de vous laisser partir sans parler de l'électricité. Hein. Ça va augmenter plus que l'inflation, hausse des tarifs d'Hydro-Québec de 3 % pour les trois prochaines années. C'est-tu pour aider justement à payer cet émondage-là, cette coupe d'arbres-là? Y a-tu de plus en plus de frais associés à l'entretien du réseau?
Non, mais ça fait longtemps, là. Ça fait depuis 2023-2024 qu'on investit, donc c'est pas nécessairement lié à la hausse des frais d'électricité. Là. Ce budget-là est vraiment intégré là, dans notre budget. C'est lié à d'autres aléas, là, mais c'est je suis pas la personne la meilleure pour répondre à ça. Il faudrait avoir plus de détails, là, mais c'est pas nécessairement lié là, à la hausse des coûts là, d'entretien. Là.
OK. Bien, on va continuer de le faire sur le réseau. Puis c'est prévu pour la Capitale-Nationale et pour Chaudière-Appalaches aussi, ce nettoyage du réseau-là?
Oui, tout à fait. Puis les personnes, en fait, les citoyens peuvent aller voir là, directement sur notre site pour voir vraiment les secteurs qui seront touchés en 2026-2027. Donc, on fait un plan 2 ans. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'interventions là, dans la Capitale-Nationale, principalement dans la Couronne-Nord, en Capitale-Nationale, donc Stoneham, Lac-Beauport, ces secteurs-là. Là, donc, c'est facile à voir là, sur notre site pour le réseau de distribution.
OK. Alors, en résumé, on devrait avoir l'électricité au sein des foyers qui en manquent depuis ce matin, d'ici la fin de la journée. En Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, et même, vous dites, pour la province, c'est ça?
Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a des cas plus complexes, mais on prévoit là, que ça soit résorbé le plus tôt possible pour les citoyens.
Merci beaucoup, Emiliane Bacon, porte-parole d'Hydro-Québec.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Oui, on parlait des tarifs, puis ça fait quand même réagir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué jusqu'à maintenant, mais la Régie de l'énergie a tranché et c'est une hausse des tarifs d'électricité de 3 %. Puis ça va s'appliquer aux clients résidentiels, donc à vous, à moi, à tout le monde, le 1er avril prochain. C'est dans quelques semaines, 2-3, là, gros max, et l'augmentation sera réduite de 4,8 % à 3,6 % pour les clients commerciaux et industriels pour les trois prochaines années. On a comme choisi de faire monter le prix au niveau du résidentiel puis baisser un prix commercial. Ça risque de toucher énormément les gens, vous le voyez. Hein? On vous demandait de faire peut-être une consommation un petit peu plus aguerrie, de partir le lave-vaisselle en pleine nuit, de faire en sorte que vous avez une cédule pour votre lavage aussi qui part à des heures où il n'y a pas un gros momentum là, de gens qui utilisent, mais qui ont une consommation d'électricité plus élevée. Mais je trouve que c'est déjà souffrant. Le compte d'Hydro-Québec est déjà souffrant pour même un petit loyer de un 3,5 là, qui est chauffé en haut, en bas, avec les intempéries qu'on a connues cette année. Là. C'était pas des froids immenses à chaque jour. C'était pas intense. Oui, on a eu un hiver, mais un hiver québécois. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'il s'éternise comme n'importe quel hiver qu'on a connu. Sauf que, est-ce qu'on a gelé à s'en maudire à chaque jour? La réponse, c'est non. La hausse des tarifs d'électricité, comment vous voyez ça venir? Au 88-971-1021, ça vous coûte combien environ mensuellement? Ou sinon, 2 mois, mais précisez-le, 88-971-1021. Parce que quand on en parle, vous êtes beaucoup à nous le dire. « Hey, moi, ça m'a coûté tant, je vois une augmentation. » Puis là, on en prévoit une autre, puis ça s'en vient. Cette hausse-là de 3,6 % qui a été accordée par la Régie pour les tarifs commerciaux industriels, c'est inférieur à ce que Hydro-Québec avait demandé. En plus, parce qu'on avait demandé 4,8 %. Puis la décision a automatiquement été dénoncée, puis on pourrait la contester devant les tribunaux. On réclamait du côté de la Société d'État une augmentation de 40 % de ses dépenses pour l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? On met ça où? Qu'est-ce qu'on souhaite? Tu sais, c'est souvent la question du consommateur. Puis je pense pas que vous avez plus de services actuellement. Fait que vous comprenez pas ou vous obtempérez pas à cette hausse-là. Puis je vous comprends. La régie a accepté 98 % des dépenses totales réclamées par Hydro-Québec. C'est énorme. Donc, on a jugé que ça se voulait, ça se valait. Pour les consommateurs résidentiels, la hausse de 3 % ça va se traduire, comme je vous dis, à partir du 1er avril, augmentation de 2,30 $ de la facture mensuelle pour un logement de 68 mètres carrés, puis 5,46 par mois pour une maison moyenne de 158 mètres carrés. Quand on parle de chiffres comme ça, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais c'est l'accumulation des choses, c'est l'accumulation du haut de l'inflation dans tous les produits, puis dans tous les besoins, dans tout ce que vous consommez, qui vient qu'à vous étouffer. Et les clients le disent. Il y en a beaucoup aussi qui ont peur d'avoir une voiture électrique parce qu'ils ont peur justement que ça coûte beaucoup plus cher au final d'avoir cette voiture électrique-là avec moins de possibilités de chercher les bornes un peu partout et autres. Puis, ça décourage. C'est pas vrai qu'on va passer à l'électrique avec ces hausses de tarifs-là que l'on voit, que l'on constate, avec le fait aussi que la voiture coûte très, très cher, puis qu'il n'y a pas de service pour faire le Québec en entier sans arrêter à multiples reprises, puis d'attendre aussi pendant plusieurs heures. Antoine dit, moi, c'est 1 000 $ par 2 mois. J'espère que tu as une maison ancestrale. Antoine, 1 000 $ par 2 mois, c'est quelque chose. Quelqu'un qui dit, ma génératrice a 2 ans, elle a fait plus de 90 heures déjà. 2 ans pour sa génératrice, 90 heures. Fait qu'il parle des pannes qui sont un peu à répétition dans ces secteurs. T'habites où, toi? Puis c'est-tu justement à cause des pannes électriques que tu as constatées en augmentation et tout ça? Tu sais, on voyait du monde aussi aller s'acheter des génératrices à la folie, à la va-vite dans des épisodes où on avait des pannes pendant 2-3 jours. Puis au final, ben, c'est l'un des meilleurs achats de leur vie. Moi, j'ai vu du monde bien content d'en recevoir à Noël. Mais c'est problématique, puis c'est déjà nocif pour les petites entreprises, pour les entreprises en général, puis pour les foyers, ces hausses-là. Ça s'ajoute, en fait, à tout ce qu'il y a à être payé dans le mois. Restez là dans le Point de Max, puis continuez d'écrire au 88-971-1021. Je vous lis assurément. On revient dans un instant à Boulevard 101. Aujourd'hui, c'est une touche de CV parce que Max Larouche est absent. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu ce matin aussi. Il va revenir jeudi. Il y a un dossier qui a fait bien réagir dans les dernières minutes, puis c'est combien vous payez votre facture d'électricité. Vous avez été énormément à répondre au 88-971-1021, puis ça donne une bonne perspective de ce qui se passe, en fait, sur nos réseaux, puis avec Hydro-Québec. Bon, une moins bonne perspective quand l'ordinateur devant moi bug. Alors, je vais me souvenir des facturations, mais j'avais, entre autres, pour un bungalow, un genre de 475 par mois. Fait que faites le compte au bout de tout ça, au bout de l'année, combien ça peut coûter. J'avais un jumelé aussi. C'était sensiblement dans les mêmes prix. Ce qui rentrait aussi par texto, c'est un simple 3,5 pour 275 par mois. Fait qu'au final, ça lui faisait un 400, 500 et plus aux 2 mois. J'ai 100 $ par mois pour un autre bungalow en mode économise, par exemple. Donc, on a mis les thermostats au plus bas possible. On débranche les appareils. Ça aussi, ça joue pour notre auditeur, de ce que je comprends. Et on dit, il y a de plus en plus de pannes et elles sont de plus en plus longues. C'est un constat qu'on a fait ici. Janvier-février, ça m'a coûté 450. J'ai un jumelé avec un spa extérieur qui marche à l'année. Le gars à 1 000 $ a certainement une maison ancestrale. C'est là que je me posais aussi la question. Je trouvais que c'était beaucoup. Bungalow avec un garage chauffé. Tiens, on a la réponse de celui qui payait 500 $ par mois, donc 1 000 $ pour 2 mois. Quelqu'un qui dit, hey, on est pratiquement à l'endroit dans le monde où est-ce que l'électricité coûte le moins cher, on ne l'apprécie pas assez. C'est aussi l'endroit où on le produit le plus. Fait que si on venait qu'à comparer à travers le monde selon d'autres ressources qui produisent de façon quand même importante en termes de quantité, bien là, peut-être qu'on pourrait comparer un peu au prorata, mais si on vient qu'à l'acheter à l'extérieur et tout, c'est sûr que là, les prix montent aussi. Quelqu'un qui dit, il y a de quoi qui ne marche pas dans des consommations d'auditeurs. Moi, l'utilisation normale, on ne restreint rien, c'est 200 $ aux 2 mois. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Puis ça continue de rentrer. À paiement égaux, c'est 370 $ par mois pour moi. J'ai une maison avec 2 garages chauffés, spa, piscine chauffée et auto électrique. Merci, Alex. Et continue de le faire. Autant surtout Twitch, twitch.tv/BLVD/FM, que par texto au 88-971-1021. Puis souvent, je ne sais pas si vous avez activé ça, vous, pour Hydro-Québec, mais on peut voir c'est quoi notre consommation majoritaire. Fait que tu t'en vas sur le site, là, sur ton compte à toi, puis tu acceptes qu'ils fassent un genre de bilan, puis tu vois un peu pour tes appareils selon les catégories, mais il faut que tu l'actives. Comme ton budget là, sur ta plateforme bancaire, il faut que tu l'actives. Bien, c'est le même processus, c'est le même principe, en fait, avec Hydro-Québec. Puis ça donne un peu un air d'aller de ta consommation. Ce matin, on jasait avec Mathieu Lavoie, parce que ça, là, c'est une nouvelle sur laquelle il faut s'attarder. Et c'est celle des agents carcéraux qui ont été agressés, qui ont été battus du côté de la prison ici à Québec. Donc, agent correctionnel, 4 et un chef d'unité qui ont été agressés par un détenu hier à la prison de Québec. C'est pas le premier incident. Souvent, Max et Audrey reçoivent dans l'open mic un ancien agent carcéral correctionnel qui raconte à quel point ça a changé, justement. Il s'appelle Carl, il est toujours très, très, très généreux dans ses témoignages. Mais là, hier, transport de plusieurs employés à l'hôpital et c'était 5 contre 1. Puis encore là, c'est ceux qui ont été blessés, c'est ceux qui ont été transportés à l'hôpital. Il y en avait combien qui ont essayé de procéder à l'altercation? Il y a eu poivre de Cayenne utilisé, mais finalement, c'est serviré contre les agents. C'est-tu normal, ça? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne mette pas la vie en danger de ces gens-là qui sont supposés protéger nos prisons puis avoir un certain déçu sur les détenus? Là, le détenu a été placé sous haute surveillance. Il a été transféré dans un autre établissement. Mais on recevait Mathieu Lavoie, qui est le président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec dans Marceau le matin. Puis il s'est livré à plusieurs témoignages intéressants. Entre autres, il a commenté l'attaque.
Les agents voulaient procéder à une fouille sommaire là, parce que le détenu avait été aperçu en saisissant un objet, en le dissimulant, en se rendant vers une salle de classe là, pour aller rencontrer un intervenant externe, un civil. Donc, les agents ont intervenu. À ce moment-là, la personne incarcérée n'a pas tempéré et est devenue agressive, a chargé les agents et l'intervention s'est déroulée. Oui, on parle là, de plusieurs agents, agentes là, qui étaient dans l'intervention. Selon ce qu'on en sait, il y aurait deux des agentes qui auraient possiblement, là, je veux dire possiblement parce que je n'étais pas à l'hôpital, là, mais possiblement une commotion cérébrale là, suite à des coups portés par la personne incarcérée. Donc, ça a pris plusieurs agents pour finalement maîtriser la personne incarcérée qui avait réussi justement à briser là une des armes intermédiaires là lors de l'intervention. Là, on parle d'une bonbonne de poivre qu'elle avait réussi à briser en la saisissant.
En passant, si vous avez des témoignages, puis vous faites partie là, d'agents correctionnels qui essaient de maintenir l'ordre entre les murs des prisons, vous pouvez toujours nous écrire. Hein? On aime ça avoir de l'information. Puis vous êtes plusieurs à le faire. Il y a beaucoup d'attaques qui ne viennent pas dans les médias, qui ne viennent pas vraiment dans le commun des émissions à chaque jour, mais il y a beaucoup d'informations qui nous viennent, par exemple, sur nos adresses personnelles et autres. Puis c'est des attaques sanguinaires. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur des murs de prison. Puis on est en train de se regrouper puis de monter aussi d'autres petits clans qui, des fois, se revirent contre leur clan principal puis qui décident de faire des affaires ensemble entre les murs des prisons. Ça ne devrait pas être comme ça. La situation dans les prisons, Mathieu Lavoie l'a commenté en partie ce matin.
Oui, on le dit depuis des années, la violence augmente dans nos établissements, la population carcérale s'alourdit de plus en plus. On le voit, ce type d'agression-là, d'émeutes, de soulèvements, on en voit de plus en plus dans nos établissements. Puis en fait, la seule entité qui semble rien voir de ça, c'est le gouvernement qui ferme les yeux quand on leur dit que la violence dans nos établissements, c'est la même chose que la violence dans nos rues, qui augmente. Elle se transpose dans nos établissements de détention parce que la population carcérale qu'on a est plus lourde et le gouvernement fait l'aveugle, fait l'autruche, la tête dans le sable sans se rendre compte de cette réalité-là ou sans reconnaître cette réalité-là.
Tu sais, quand on parle de coupe, là, c'est fascinant de voir que là, on va aller couper dans le système carcéral qui est supposé être une des bases de notre société, faire la loi et l'ordre, mettre les agents correctionnels qui sont déjà en pénurie de main-d'œuvre en danger. On coupe des fois dans cette formation-là qui leur permet d'être imposant, puis surtout d'être actif, d'être proactif. C'est fascinant, là, puis c'est pas le seul épisode. Il parlait justement des formations. On va l'écouter dans un instant, mais je dois quand même vous dire qu'il se passe quelque chose sur le pont Pierre-Laporte. Un auditeur nous a envoyé une vidéo comme quoi il y a une vanne, et ça semble être en direction sud, que la vanne est cantée, là, complètement sur le pont Pierre-Laporte. Donc, tombée. Mais c'est le garde-fou du milieu du pont qui la garde quelque peu alignée. Personne semble avoir été blessé là-dedans. Mais la vidéo va être sur nos médias sociaux là, dans quelques instants. Sinon, je vois aussi que Laurentienne, direction sud, il y a une opération parce que je vois une ambulance puis ça a ralenti le secteur. Si vous avez de l'information, 88-971-1021. Alors, on parlait des formations pour les agents carcéraux. Est-ce qu'ils sont assez armés? Est-ce qu'on leur fait pratiquer leur façon d'intervenir avec leurs armes? Est-ce qu'on les entraîne assez physiquement et même mentalement pour être capable d'agir dans des situations comme celles qu'on a vues hier à la prison de Québec?
Il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce qu'il y a un poids de grandeur? Non, il n'y a pas ces critères-là. On le sait que déjà, il y a déjà eu des critères comme ça pour certains corps agents de la paix dans le passé, mais qui ont été jugés là que c'était discriminatoire. Au niveau des formations, il y a de la formation d'intervention physique. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas quand on dit on a une journée par année de rappel. On devient pas là avec des gestes d'automatisme avec seulement une journée de rappel par année. Il est clair que ça aussi, ça devrait être regardé pour justement faire face aux violences qui augmentent, faire face à la population carcérale. On doit venir bonifier les formations, ça c'est clair. Puis on l'a déjà dit, mais il y a toujours une question de budget derrière ça. Souvent, c'est les premières choses qu'on coupe au service correctionnel, les formations puis les rappels de formation, quand on est en compression budgétaire, et c'est le cas actuellement pour le gouvernement, sont en compression majeure au service correctionnel. Mais quand on voit ce qui arrive, on voit que des agents vont être absents pendant peut-être quelques jours, plusieurs semaines, on ne sait pas. Je pense que la formation est nécessaire. On doit la regarder et la bonifier.
Donc, on a plusieurs problèmes là-dedans. Premièrement, au niveau de ce que tu représentes en tant qu'humain, on a baissé les standards, on a baissé les critères, on avait une pénurie de main-d'œuvre. Au niveau des formations, on n'est pas assez assidu là-dessus aussi. Puis là, on parlait, par exemple, d'être capable de manier ton arme. Même les policiers, ils disent que, par eux-mêmes, ils peuvent aller au club de tir puis se pratiquer, mais qu'il manque quand même de la formation continue là-dessus. Les critères ont baissé.
Les critères, on le voit aussi dans d'autres corps d'emploi agents de la paix, que les critères ont été réduits justement pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre, pour faire face au temps supplémentaire, pour économiser. Je pense que ça aussi, ça avait été, on l'avait décrié grandement à l'époque. Ça avait créé d'ailleurs un froid assez intense avec le ministère quand on leur avait signifié qu'on n'était pas d'accord avec leur vision de l'embauche.
Il y a quelque chose là qui est hyper important. Dans quel corps de métier on peut pas se permettre de baisser la qualité des gens qui y travaillent? Est-ce qu'on a un manque de fierté aussi en tant qu'individu? Est-ce qu'on veut assez prendre notre travail au sérieux, surtout dans des institutions où ça le demande? Est-ce qu'on est en train de faire assez au niveau des boss, du patronat, des syndicats, du gouvernement? Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Écoutez, il faut peut-être arrêter de faire plus d'accompagnement que d'agir. Et c'était le mot d'ordre de Mathieu Lavoie ce matin.
On est beaucoup sur la communication, la négociation. C'est beaucoup là-dessus. Là. On est beaucoup sur la communication, la négociation. Mais au-delà de ça, je pense que ça va plus loin que ça. Il y a la banalisation que le ministère de la Sécurité publique en fait ou le gouvernement en fait de la violence envers les agents, où souvent on entend, puis encore hier, on l'a entendu de la part d'une gestionnaire, là, mentionner c'est pas si grave, c'était pas des gros coups, c'était pas une grosse altercation. Je pense que ça, c'est banalisé. On doit nous donner les outils, justement, parce qu'on a une population carcérale plus lourde, donc on doit pouvoir avoir des sanctions disciplinaires, avoir de l'accompagnement pour des poursuites judiciaires. Je pense que ça, faut qu'il y ait un message clair d'envoyer que c'est inacceptable, la violence envers des agents de la paix. Il existe des articles au Code criminel, puis ces articles-là doivent être appliqués, oui, par le ministère de la Justice, mais la Sécurité publique doit accompagner son personnel aussi.
Il y a beaucoup de choses dont on ne parlera jamais assez souvent, puis ça, ça en fait partie parce que ça change énormément le visage de la criminalité. Ça change énormément comment ça se passe entre les murs des prisons. Tu sais, quand tu as accès à un gym, là, puis que tu t'entraînes jour après jour dans ton gym, puis tu sors de là, puis tu es encore plus une machine à tuer que tu étais quand tu t'entraînes au gym de la prison, par exemple, puis que tu as réussi à avoir des meetings avec certains, puis tu as été capable de faire avancer des choses à l'intérieur même des murs carcéraux, t'as été capable de te faire livrer de la drogue, un téléphone cellulaire. Comment est-ce que tu penses que par la suite, ça va se passer? Est-ce que la prison est prise au sérieux aussi? Est-ce que ça devient un problème? Est-ce que ça devient quelque chose que tu veux éviter d'aller faire du temps en prison? Dans le temps des Hells Angels, on envoyait certaines personnes faire du temps à l'intérieur pour permettre à des pierres angulaires d'être encore sur le territoire et de travailler, donc à l'extérieur de la prison. Fait qu'il y en a qui finalement y allaient, mais c'était pas nécessairement eux qui étaient à être dans les murs de la prison parce que justement on voulait pas y aller. C'était beaucoup plus organisé et c'est sûr que le visage de la criminalité a changé, mais je pense que quand je lis vos textos, quand j'entends des Mathieu Lavoie, quand je vois les gens qui sont un peu pris au dépourvu par des situations comme des agents correctionnels qui ont été battus, qui sont à l'hôpital, on craint pas pour leur vie, mais quand même, c'est là où ça peut être fort problématique. Puis je vous rappelle, Mathieu Lavoie, c'est le président national du Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Il était en entrevue ce matin. C'est possible de reprendre l'interview intégrale au blvd.fm. Il y avait une nouvelle sur le trafic de stupéfiants à Québec. Il y a un réseau lié aux Hells Angels qui a été visé par une opération. On est toujours là-dedans en ce moment sur le territoire de la ville de Québec. Oui, c'est l'escouade nationale de répression du crime organisé qui est au sein de la Sûreté du Québec, mais le service aussi de police de la ville est impliqué dans le dossier. Plusieurs arrestations, ça survient toujours au cours de cette journée-ci. On va être capable de parler des perquisitions et des arrestations qui ont été faites par une vingtaine de policiers un peu plus tard dans la journée. On surveille ça pour vous. Une nouvelle de dernière minute qui est sortie aussi, c'est un ancien député du Bloc québécois. Du Bloc qui a été arrêté à Québec, oui, pour agression sexuelle en position d'autorité. Donc, député du Bloc québécois de 2008 à 2011, il s'appelle Pascal-Pierre Payet, il a 47 ans. Il s'est fait mettre la main au collet ce matin dans le secteur de Saint-Augustin-des-Morts. Enseignant de formation, ancien député fédéral. Et là, c'est une enquête en matière de crimes sexuels qui implique des mineurs qui ont mené les policiers à cet homme-là, fait face à des chefs d'accusation d'agression sexuelle en position d'autorité, de contact sexuel et d'autres agressions sexuelles. Le quarantenaire devrait comparaître en après-midi au Palais de justice de Québec. Le Centre de services scolaires de la capitale confirme d'ailleurs que l'ancien élu de la circonscription fédérale de Louis-Hébert, bien, il est suspendu depuis plus d'un mois en lien avec cette histoire qu'on juge troublante. Il aurait commis des actes lors de deux événements distincts, d'après le corps de police, là, c'est ce qu'on dit. Donc, le premier, il aurait profité de sa position d'autorité pour avoir des relations sexuelles avec un élève entre le 1er janvier et le 25 juin 2006. Puis le deuxième événement, lui, ça aurait eu lieu en août 2024. Janvier dernier, c'est une source bien au fait de la situation qui aurait contacté le journal pour dénoncer les agissements qui sont reprochés à Payet dans le plus récent dossier, celui de 2024. Là. La présumée victime, il l'appelle Mathis, c'est un nom fictif, s'est livrée en entrevue exclusive pour expliquer sa version des faits. Donc, adolescent âgé de 14 ans à l'époque, qui soutient qu'en août 2024, il y a eu un match sur l'application Grindr, une application gay, avec l'ex-député. Et c'est là où ça a commencé à dégénérer. C'est un dossier complet, on en reparle, mais sachez que ça vient de tomber. Donc, l'ancien député du Bloc québécois, Pascal-Pierre Payet, 47 ans, enseignant de formation, qui a été arrêté par les policiers aujourd'hui. On va aller parler dans un instant à Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université Dalhousie et directeur du Laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires. Pourquoi? Mais ça se peut que vous ayez pu trouver de fruits et légumes en épicerie. Il y a un petit quelque chose à aller voir, surtout sous la chaîne Métro, mais aussi comment est-ce qu'on tente de se diversifier puis d'être autonome en agroalimentaire au Canada quand finalement on nous ment sur des produits puis qu'on pense qu'on est des bons citoyens puis qu'on vient d'acheter canadien, qu'on vient d'acheter québécois. On éclaircit tout ça avec Sylvain Charlebois dans un instant.
Le Point Max.
On a eu de l'information sur le fameux camion sur le pont Pierre-Laporte qui est tout simplement tombé, qui a versé. Et je vous en parle dans un instant. Le temps de vous dire que c'est moins 2 degrés à Québec, alternance soleil-nuage. C'est vraiment le scénario pour aujourd'hui. Demain, mercredi, du soleil partout, 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 avec moins 5 comme maximum. On est toujours aux prises avec des pannes électriques partout en province, justement, parce qu'on avait des vents de 120 km/h dans certains secteurs. C'est toujours difficile pour la capitale nationale, surtout dans la Jacques-Cartier. C'est toujours difficile aussi. Portneuf, je voyais tout Québec-Ouest, là, dans le coin de l'aéroport. Il y a même chose du côté de Chaudière-Appalaches, énormément de pannes électriques. Là, on parle de 9 000 en montant, parce qu'au Québec, il faut savoir, c'est 300 000. Donc, toutes les équipes d'Hydro-Québec tentent le plus rapidement possible d'aller vous gérer ça, mais avec des vents aussi violents qu'on a connus, là, ça a cassé des branches d'arbres et ça a brisé le réseau. Alors, le réseau électrique est un peu paralysé, mais on parlait un peu plus tôt à Émilianne Bacon, porte-parole d'Hydro-Québec, qui disait ça devrait être colmaté. Ces pannes électriques-là, d'ici l'heure du souper. Donc, au retour à la maison avec les enfants, peu importe, vous allez être capable de faire fonctionner vos appareils électriques, mettre un peu de chauffage, puis d'allumer les lumières. C'est la bonne nouvelle. Je voulais vous parler du camion. Ouais, ça a été intéressant de voir que personne n'a été blessé de façon... importante, peut-être un peu plus sous le choc, là. Mais camion qui s'est renversé sous la force des vents sur le pont Pierre-Laporte, c'était ce matin, autour de 9h45, un peu avant qu'on entre en onde ensemble dans le point de Max. Mais la remorque d'un camion qui circulait dans la voie de gauche en direction sud, qui s'est renversée, donc la voie de droite en direction nord qui a été partiellement entravée. Les automobilistes vont devoir s'armer de patience parce que le véhicule, c'est un peu plus long avant qu'il soit remorqué et ça ralentit énormément le secteur. Les rafales de vent atteignaient 70-90 km/h là, dans cette artère-là. Circulation qui est actuellement au rouge foncé sur les cartes du MTQ dans les deux directions. Parce qu'on a les WRE d'un bord, on a aussi la sécurité qu'on fait sur le bord, en fait, du terre-plein du milieu. Et t'as tout ce qui a été congestionné par le renversement du camion il y a quelques minutes. Vous êtes dans le point de Max à Boulevard 102.1. Très contente d'aller lui parler. Un homme qu'on aime beaucoup puis qui va nous jaser d'alimentation avec le prix de l'essence. Et on attend encore le fait que ça va augmenter dans les prochains jours. La guerre au Moyen-Orient est loin d'être terminée. Donald Trump veut bien déboucher le canal, le détroit d'Ormuz, mais c'est pas tout le monde qui veut le faire avec lui. C'est sûr que quand tu es à risque de te faire sauter par l'Iran, ça se peut que ça tente un peu moins de promener avec ton paquebot plein d'essence, plein de pétrole. Mais lui, il suit les prix pour nous. Et il s'appelle Sylvain Charlebois. Il est professeur à l'Université Dalhousie, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Bon, on peut dire que tu es dans le jus ces temps-ci pour, un, ta job normale, celle dans les médias, puis assurément le conflit au Moyen-Orient. Mais on ajoute à ça le conflit de travail chez Metro, la bannière Metro. On pourrait avoir du mal à avoir nos fruits et légumes. Moi, c'est une première là, que je vois où 550 employés du centre de distribution, c'est du côté de Laval, réclament, bon, un important rattrapage salarial, mais qui ont décidé dans leur moyen de pression de comme arrêter de travailler. On a voté à 97 % au centre de distribution de mettre un genre de gel sur le travail qu'on offre habituellement dans 350 épiceries sous la bannière Métro au Québec. Dans ce cas-ci, ça pourrait jouer sur ce qu'on va trouver sur nos tablettes.
C'est possible, oui. Mais c'est pas certain. Parce que on l'a vu en fait en Ontario l'année passée, il y a eu un gros centre de distribution qui avait été affecté par un bris mécanique là, dans le coin de Toronto. En fait, c'est un centre de distribution qui avait coûté $1 milliard à bâtir. Là. C'est vraiment c'est un centre immense. Puis en Ontario, on n'a pas vraiment vu qu'il y avait un manque d'approvisionnement dans les magasins.
Okay.
Alors moi, j'ai l'impression que ce qui risque d'arriver dans le cas de Laval, c'est qu'on pourrait voir, oui, certains trous, il pourrait y avoir un manque de produits, mais on va faire tout ce qu'on peut pour, disons, remplir les tablettes. Là. Il pourrait y avoir, disons, plus de la même pomme ou plus de bananes, peu importe là. Ben j'ai l'impression qu'on va se passer des choses pour rassurer le monde parce que la dernière, ce qui est pas vendeur, c'est des tablettes vides. Donc on va tout faire pour pas avoir de tablettes vides, puis de démontrer aux gens qu'on a un conflit de travail qui affecte qui affecte les chaînes d'approvisionnement chez Métro, là.
Oui, puis c'est important quand même parce que, bon, sous la bannière, c'est Super C, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu, Brunet. Tu sais, c'est une grosse entreprise québécoise, Métro. Ça vaut plus de 20 milliards en bourse. Assurément, on ne veut pas perdre la face, hein, disons-le, comme ça, du côté des gens qui le possèdent. Ça reste que les conflits de travail, bon, ça irrite toujours, hein, autant les syndiqués que les employeurs. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on a suivi la tendance salariale? Est-ce qu'on a suivi le marché où on est encore un petit peu trop à se mettre des profits dans les poches du côté des épiceries?
Bien, il y a d'abord les salaires. C'est sûr que les salaires dans le domaine agroalimentaire sont toujours un défi, là, parce que évidemment, les marges sont pas très élevées, les salaires sont pas super élevés, complètement dans le secteur financier, par exemple. C'est sûr, quand on compare, les salaires dans le secteur sont généralement moins élevés. Mais je pense que l'autre menace, c'est la robotisation, l'automatisation. Moi, j'ai visité l'année passée le centre de distribution de Métro à Terrebonne, là, sur l'île de Montréal. Là. Écoute, tu peux préparer un camion complet pour approvisionner un magasin dans la région de Québec, là, avec pratiquement personne qui touche quoi que ce soit. Là. Tout est automatisé. Fait que c'est sûr que ce qui effraie beaucoup les syndicats et les travailleurs, c'est de voir différentes entreprises comme Métro investir beaucoup pour faire tout sans humain. Moi, je pense que c'est plus ça l'enjeu, là. Moi, je le vois, là, de plus en plus, surtout depuis la COVID, là, quand il y a eu des fermetures ici et là. L'industrie agroalimentaire a appris beaucoup de cette période-là. Alors, on veut éviter les perturbations puis commencer à miser davantage sur l'automatisation. Donc, moi, je pense que c'est pas, il y a probablement ça aussi qui est discuté là, avec le conflit de Laval. Là.
OK. Puis quand on parle d'épicerie et tout ça, tu sais, des fois, les conflits de travail et autres vont faire augmenter la facture aux consommateurs. Déjà, cette année, pour se nourrir, c'est 17 500 $ qui est évalué au niveau de l'augmentation des paniers d'épicerie. Une famille québécoise pourrait payer jusqu'à 995 $ de plus là, annuellement. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est déjà difficile si on a moins de choix, si on essaie de faire front à Donald Trump sur les tarifs et acheter un petit peu plus local. On n'y arrive pas, Sylvain Charlebois. C'est impossible.
C'est sûr. Ben, il y a cette pression-là, la pression sociale, la pression socio-économique, elle est réelle. Alors, des compagnies comme Métro savent qu'on peut pas augmenter trop les prix. Donc, si on veut mieux payer les employés, ben, il faut que ça vienne d'à quelque part, là, c'est sûr, là. Donc, on va peut-être régler, mais évidemment, on va régler avec moins d'employés. Mais c'est certain qu'actuellement, le contexte inflationniste là inquiète beaucoup de monde, inquiète les bannières. Comment on fait pour justement arriver? Et c'est pour ça que dans le cas de Métro, par exemple, on a décidé d'ouvrir ou de convertir 12 Super C dans la province de Québec cette année seulement. Même chose chez Loblaws avec Maxi. Le marché est beaucoup plus économe en raison des prix alimentaires, là. Donc, il y a vraiment une sensibilité qu'on voyait pas il y a quelques années, là.
Oui, puis ça, il va falloir le surveiller parce que j'ai l'impression que ça va être de plus en plus difficile pour tout le monde. On refile la facture toujours aux consommateurs. Souvent, on le disait comme ça, la va vite, mais là, c'est vrai. Puis ça va me permettre, en terminant, Sylvain Charlebois, tant qu'à t'avoir au téléphone, je voyais un communiqué hier, puis tout le monde essaie de faire, hein, son possible. Acheter local chez nos agriculteurs l'été, bon, l'hiver, essayer d'aller sélectionner des produits où c'est écrit produits québécois. Des fois, on veut acheter canadien. Ça nous coûte un peu plus cher parfois, mais on fait des choix pour encourager notre économie puis les gens d'ici. L'affaire, c'est quand on apprend que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a donné des contraventions, des sanctions pécuniaires qui totalisent 47 000 $ à des entreprises pour des allégations inexactes ou trompeuses, ça veut dire de mal étiqueter, de faire semblant que ça vient d'ici. Finalement, ça a juste été emballé ici. Comment est-ce qu'on peut faire confiance aux entreprises?
Ouais, ça, c'est une bonne question. D'abord, il y a le contexte québécois. Moi, je trouve que le contexte québécois est quand même assez clair avec le programme Aliments du Québec, là. C'est difficile de visiter une épicerie au Québec puis de ne pas voir de produits québécois. Ça, c'est une chose. Et puis, l'Agence canadienne ne réglemente pas cet aspect-là. Donc, pour un Québécois ou une Québécoise qui recherche des produits québécois, c'est quand même assez facile. Au niveau fédéral, il y a du travail à faire. Ça, c'est sûr, là. Il y a évidemment les produits du Canada produits faits au Canada, tout ça. Il y a des fleurs d'érable partout là en magasin. Au Québec, il y en a peut-être un petit peu moins, mais ailleurs au Canada, il y en a tellement là, c'est incroyable. Puis on a apposé des feuilles d'érable sur des produits qui sont pas nécessairement canadiens. Mm. Puis on a décidé de punir. Puis si tu regardes le communiqué de presse de l'agence, ce sont tous des magasins en Ontario, je crois, parce qu'en Ontario. Je pense qu'il y a eu un peu d'abus là avec la feuille d'érable là. Et c'est tant mieux là. C'est sûr, 47 000 $, c'est pas énormément, mais tu sais, le premier communiqué qui a été envoyé, je pense il y a un an, on nous mentionnait qu'on avait averti une centaine de détaillants sans émettre d'amende. Puis je pense que ça avait mal passé à l'époque. Alors oui, aujourd'hui, on commence à émettre des amendes, ce qui envoie un message clair.
Ben oui, parce que nous, on se fie là-dessus, puis on veut bien dépenser quelques sous de plus pour un produit qui vient d'ici, sachant que en ce moment, c'est plus important que jamais. Mais quand on se fait avoir, c'est là qu'on peut-être on perd espoir. Hein? C'est comme le recyclage quand ils disent faites votre recyclage puis ça se ramasse dans les bennes à ordures quand même. Peut-être qu'on est un peu plus découragé. Merci beaucoup. Merci Sylvain Charlebois.
Bonne journée.
Salut.
Bye bye.
Toujours intéressant de lui parler. Il est professeur à l'Université Dalhousie et directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire. Vous commentiez la chose en disant tout ça parce que personne ne veut toucher à son pourcentage de profit. Que diraient les actionnaires? Non, il faut toujours être en record de profit année après année. Ça ne marche pas. Il est peut-être le temps de repenser le modèle du travail, peut-être couper à ceux qui font beaucoup d'argent avec pas grands efforts et donner à ceux qui font beaucoup de travail pour pas beaucoup de sous. Avec l'intelligence artificielle et l'informatique, il y aura plein de travail désuet. Quelqu'un d'autre qui dit « S'il fallait payer à l'effort, je serais riche. » Mais il serait temps que les employeurs comprennent que le travail physique est dévalorisé. Scrape-toi la vie. Tiens, je te donne 20 $ l'heure. Ça fait réagir. Autant sur Twitch qu'au 88-971-1021. Et par texto, je vous remercie. Carl, de son salon, qui voit qu'on commence à retirer le camion sur le pont Pierre-Laporte qui avait versé. Hein. Là, on l'avait redressé dans les dernières minutes puis on est en train de procéder.
Pas répondu.
Max Larouche fait le point sur les gros dossiers du jour, les développements et le wrap-up de ce qui fait jaser aujourd'hui.
Max, pourquoi tu te lances toujours dans ces histoires?
Boulevard 102.1.
Jusqu'à midi, le point de Max.
Ouais, jusqu'à midi, c'est le point de Max et on en a du service à faire. On pourrait faire juste ça dans l'heure, honnêtement. En tant que fidèle dans la station depuis ce matin, je peux vous dire qu'on a un petit constat à faire. Les pannes d'électricité, ça commence à se résorber. Ça diminue tranquillement, pas vite. Ça ne faisait que monter depuis le début de la matinée parce que ben, les vents sont forts. Je pense que je vous apprends rien. Surtout pas si vous étiez sur le pont Pierre-Laporte il y a quelques minutes, mais on en reparle. On est rendu autour de 280 000 pannes partout dans la province. Pour la capitale nationale, c'est 25 000. Chaudière-Appalaches, c'est 11 000. C'est vraiment Jacques Cartier qui est toujours un peu plus touché. Hein? Puis les gens en jasaient, même à Lac-Beauport et tout, aussitôt qu'il y a un vent un petit peu plus fort, bien, il n'y a plus d'électricité. Puis les gens en parlent. Je pense que la génératrice a été inventée pour Lac-Beauport. Charlebourg, 211 foyers privés d'électricité. C'est vraiment Québec-Ouest qui est pris là, avec des interruptions. Sainte-Foy aussi, on est au-dessus de 5 000. Donc, on a parlé tantôt à la porte-parole d'Hydro-Québec qui disait « Inquiétez-vous pas. » Pour l'heure du souper avec les enfants, avec le retour à la maison, ça devrait être rétabli. On devrait être correct d'avoir de l'électricité. Sinon, j'ai un petit concours pour vous. Bonne Sainte-Patrick. Hein? C'est la journée de la Sainte-Patrick aujourd'hui. Mais le samedi 28 mars à 14h, dans le centre-ville de Québec, il va y avoir son des cornemuses parce que c'est le défilé de la Sainte-Patrick de Québec. Puis pour ça, bien, on vous offre une carte cadeau de 50 $ au pub Galloway. Pourquoi? Bien, parce que ça va se passer là aussi. Donc, défilé, oui, des lévriers irlandais, des troupes de danse celtique, des farfadets, des animateurs historiques. L'événement est gratuit. Bien, pourquoi pas aller prendre une petite Guinness, une petite bière, hein? Bien, c'est là qu'on vous envoie au pub Galloway, dans le coin. Donc, le coup d'envoi, ça sera donné au coin de la rue Fraser et de l'avenue Cartier pour se diriger ensuite vers Grande Allée, toute la rue Saint-Louis, le château Frontenac, itinéraire de la parade qui va se terminer face à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est pourquoi qu'après, on vous dit, continuez de faire quelques pas au pub Galloway. Vous avez 50 $ à gagner dès maintenant. Pourquoi? Bien, je veux savoir c'est quoi l'événement qu'on fête. Tout simplement, 418-971-1021. On change pas les bonnes habitudes. Audrey Pinchot, salut.
Salut, Pascal.
Dis-moi que t'étais pas pris sur la rive sud.
Non, heureusement. Puis c'est drôle parce que sans même savoir qu'il y avait un accident sur le pont ce matin, je trouvais le monde vraiment stressé, ces routes. J'ai dû faire de la route un peu ce matin, là, puis bouger à travers Québec. Là. Puis j'avais l'impression que c'était un foutoir, un accordéon. Peu importe t'étais où, il y a beaucoup de trafic. On s'entend tout tous les matins, là, on n'invente rien. Mais je sentais une tension ce matin, ces routes, je sais pas pourquoi. Là. Puis là, j'arrive ici, puis hey, gros accident sur le pont, personne n'est capable de se rendre. Il y a des animateurs qui sont pris en ce moment
on
sur
les
le pont.
Salue.
Notre invitée qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes, elle était prise sur le pont pendant 2 secondes. Je me suis quasiment dit, on fera pas l'open mic, on y arrivera pas.
On va jaser ensemble, mais c'est... on a quand même une belle invitée aujourd'hui.
Oui, j'étais triste, je me disais, oui. Ça se peut pas que ça arrive. Fait que non, ça encombre beaucoup de gens ce matin.
Ah, oui, oui, puis même hier, je sais pas, toi, tu fais la circulation dans Gravel, dans le retour.
Oui.
Il y a quelque chose que je me suis pas encore expliqué. On dirait que la relâche a perturbé la circulation. Il y a de quoi qui n'est pas encore revenu à la normale, la tempête de verglas. Mais hier, 4h30, 16h30, je sortais d'un rendez-vous et je me suis dit, hippelaye, moi, je vais appogner à congestion sur la capitale parce que je faisais, bon, capitale, direction les ponts.
Oui.
Ça a roulé comme à Monaco. 25 minutes, j'étais rendue dans le coin de Saint-Augustin. Je partais de Beauport, l'avenue, la rue.
Je vais te dire que ces temps-ci, en général, je comprends pas la circulation. Parce que,
tu on vois, a plus l'habitude.
La semaine, ben, c'est comme s'il n'y a plus d'heure de pointe, en fait. La semaine passée, tu vois, jusqu'à vendredi, là, où il y a un ralentissement assez normal plus tôt parce que le monde commence leur fin de semaine, là, la semaine passée, il n'y avait presque personne sur les routes. C'était complètement fou. C'est sûr qu'il y avait eu la relâche avant. Ça n'a pas été des belles températures. Peut-être que les gens se sont adaptés. Cette semaine, hier, c'était un foutoir sur les routes. Probablement que ça va l'être après-midi aussi avec la température.
Mais ça recommence en passant. Là. Encore des bourrasques de vent. La neige a commencé à tomber.
Puis il vente. Je ne sais pas si tu me vois à crinière. Là. J'avais les cheveux mouillés. Là, c'est comme...
Si tu avais une perruque, ce ne serait pas la journée pour la porter.
Ah, c'est... Je vous conseille, en tout cas, de vous habiller et de vous tenir la perruque, justement. Il n'y a plus d'heure de pointe. C'est vraiment... On est prêt à Québec dans une situation où c'est à toute heure de la journée, la fin de semaine, n'importe quand. Puis on prendra le temps d'en jaser avec notre invité. Je vous la présente si ça te tente, Pascal.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
On va l'utiliser comme reporter terrain aussi ce matin pour nous parler un peu de ce qui s'est passé sur le pont. En fait, je vous présente ce matin une femme qui s'appelle Flavie. Flavie Alamand. Flavie est ici au Québec depuis plusieurs années maintenant. C'est une maman et c'est une maman qui a constaté les problèmes qu'on avait ici avec les garderies, entre autres. Avec le fait qu'on arrachait vraiment à ce niveau-là, que c'était difficile de trouver une place. Puis tu sais, les garderies, mine de rien, c'est un peu la base de tout. Hein? Je veux dire, si t'es pas capable de faire garder tes enfants, ben bonne chance pour aller travailler. Puis
et
si
faire
c'est...
rouler l'économie. Et être... Puis tu sais, il faudrait que t'inscris ton enfant avant qu'il soit dans ton ventre.
Ah, puis même en étant sur le 05, là, ma place en garderie, là, je veux dire, souvent, il y en a qui ont une place, l'enfant est rendu à 3 ans et demi. Fait que ça marche par contact, c'est hyper difficile. Et elle a décidé, il y a un an, de commencer à travailler sur un projet d'entraide qui permettrait aux familles québécoises, donc pas juste à Québec, mais au Québec, si je comprends bien, de pouvoir s'aider, de créer un réseau d'entraide, en fait, entre parents, dans un contexte où les places sont difficiles à avoir. Le projet s'appelle Mam Switch. Si vous êtes mère de famille, père de famille, peut-être que vous suivez déjà sa page Facebook, peut-être que vous savez déjà un peu qu'est-ce qui se trame avec ce projet-là. Ce que je trouve excitant, c'est qu'on le lance comme en grand ce matin, parce qu'il y a une plateforme qui vient avec ça. Et la plateforme, encore ce matin, n'était pas accessible. Donc, on va vraiment faire ça dans l'open mic. Flavie, je te souhaite bon matin.
Bon matin. Merci de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir. Puis avant qu'on parle de tout ce beau projet-là, parce que j'ai l'impression que ça va intéresser les auditeurs, tu étais prise sur le pont un matin.
Ah oui, j'étais prise sur le pont, comme beaucoup.
Mais là, c'était un pont
ça était dur.
Qui était obstrué par un camion qui avait versé. Là.
Oui,
ça,
il
c'est
était penché.
C'est ça, il était penché et il était vraiment comme encastré sur la bordure du pont. Impressionnant, donc une belle rafale de vent qui a dû le coucher. Accessoirement, c'était vraiment problématique. Je ne sais pas comment ils vont le déloger.
Ah, puis ça va être long. Là. On va en avoir pour l'avant-midi au complet, puis même un peu en début d'après-midi. Là.
On l'a remis sur ses 4 roues.
C'est fait,
en fait, c'est pas 4, là, ça devait être une coupe de roues. On l'a remis sur une coupe de roues.
18 roues.
Oui, on est en train de le sortir tranquillement, mais la circulation, là, direction sud, direction nord, c'est encore épouvantable.
Puis j'ai une pensée pour le monde qui était pris, mettons, sur le pont à ce moment-là, là, parce que les vents, ça fait peur. Là. Quand tu es sur un pont, en c'est plus, ça. Mettons que ça dérange, ça chèque. Flavie, je suis contente. contente que tu te sois rendue parce que je voulais vraiment qu'on puisse faire ça ce matin. Quand tu m'as écrit, c'est quoi, il y a 2 semaines peut-être, par courriel, on dirait que j'ai trouvé ça tellement intelligent puis j'avais envie qu'on mette ce projet-là de l'avant parce que c'est un problème qu'on vit tous. Et puis confidence, moi, ma mère, elle a été en fait éducatrice en garderie pendant 25 ans en milieu familial. Puis c'est un problème que même elle vivait, à devoir faire des choix des fois difficiles, des fois déchirants, tellement de... Il y avait tellement de monde qui cognait à la porte pour avoir des places, mais c'est parce que tu ne peux pas servir tout ce beau monde-là. C'est six enfants par éducatrice, 2 poupons maximum. Fait qu'il y a tellement de complications reliées à nos enfants, je veux dire, au Québec. Et tu as décidé de prendre ce problème-là puis d'en faire une solution, je veux dire ça comme ça. Un projet fait que tu mets de l'avant aujourd'hui qui s'appelle Mam Switch.
Exactement.
Ça vient d'où? L'idée sort d'où? Puis pourquoi t'as décidé de monter ça dans la dernière année?
Alors, déjà, comme vous savez, j'ai eu une petite fille qui a 15 mois aujourd'hui. Mmh. Et déjà, la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, moi, ça a été une petite fille qui a été conçue avec l'aide de cliniques de fertilité. Donc, j'ai inscrit ma fille avant d'être enceinte. Donc déjà, il faut le savoir. Et elle n'avait pas de place. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon congé de maternité, j'ai eu un appel d'une amie à moi, Maëla, une Québécoise, qui m'appelle, qui me dit « Je suis embêtée, je dois aller essayer ma robe de mariée. J'ai pas de milieu de garde, j'ai pas de soutien, j'ai pas de famille ici. J'ai personne pour garder mon enfant. » Alors là, du coup, je lui dis « Je viens te le garder, c'est pas un problème. » Et là, en fait, quand je lui ai dit ça, je suis allée garder son petit garçon. Et pendant la garde, là, je me disais, c'est pas possible, il faut trouver quelque chose parce que ça peut pas marcher comme ça. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mûri dans ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de s'entraider entre parents? Rien. On a la solution. La solution, il faut simplement la structurer. Aujourd'hui, on a plus de 30 000 familles qui n'ont pas de place en garderie, en milieu familial et qui n'ont pas de solution. 30 000 familles, ça veut dire aussi combien de parents, que ce soit une maman ou un papa qui doit rester à la maison, qui doit s'arrêter de travailler parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants. Si on règle ce problème de garde, on règle 2 problèmes à la fois. Le premier problème, bien sûr, la garde de l'enfant, mais également la pénurie de salariés. Parce que l'un dans l'autre, on arrive à régler 2 problèmes par cette solution. Donc moi, aujourd'hui, un petit coup de collier, si on s'entraide, et l'entraide, il n'y a rien de mieux dans la vie.
Mais nous, on est en nouvelles, on regarde toujours l'actualité, puis il faut vraiment qu'on éclaircisse ça là, je pense. Moi, j'aurais peur de faire confiance à n'importe qui sur une plateforme pour lui confier mes enfants.
Non, il y a un aspect sécurité, c'est sûr.
Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, je suis maman. Et puis, je suis une maman poule. Donc, ma fille, je ne la laisse pas à n'importe qui. Donc déjà, on prend ça en considération. Et moi, avant de permettre les échanges, je demande à ce qu'il soit fait un contrôle. Attention, sur le site, il va y avoir des particularités. Ce contrôle, il va être fait, mais que si la personne valide qu'on fasse une vérification sur elle. Je n'ai pas le droit d'effectuer des vérifications sans ça. Mais si une personne qui n'a rien à se reprocher est d'accord, je ne vois pas où est le problème.
Ah non, mais c'est vrai que c'est bien fait, c'est intelligent. Puis quand on dit vérification, ça va être quoi? Est-ce qu'il faut pièce d'identité? Est-ce qu'on fait des recherches sur les antécédents judiciaires?
Alors, pièce d'identité, c'est déjà la principale partie. Quand on va aller amener un enfant pour le faire garder, il faut que la famille qui va déposer son enfant vérifie l'identité de la personne à qui elle laisse son enfant. Ça va de soi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'essaye de mettre en place, et je suis en train de travailler avec un organisme spécialisé pour les vérifications d'antécédents judiciaires. C'est un petit peu compliqué à mettre en place parce qu'effectivement, c'est payant. Je travaille fort sur ça. Et j'espère avoir des bonnes nouvelles. C'est en bonne voie, je vous dirais, mais j'espère avoir de bonnes nouvelles très, très rapidement.
Donc là, le concept, c'est quoi? Ça s'appelle Mam Switch. Je fouillais là, ces internets ce matin, puis je suis allée voir la page Facebook. Déjà, tu as une belle communauté qui commence à s'installer.
Mais oui.
Ce matin, on lance le site web officiellement. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que c'est vraiment juste pour de l'échange de garde d'enfants ou ça va plus loin que ça?
Alors, moi, j'ai imaginé Mam Switch. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui va très loin dans sa tête. J'ai imaginé Mam Switch avec plusieurs étapes. L'étape numéro 1, ça va être de répertorier un petit peu, de créer un répertoire de parents du Québec qui sont dans ces difficultés-là. La première chose, ça va être de publier des annonces. Moi, quand on répond à ces annonces-là, j'ai mis en place un algorithme qui va essayer de déterminer déjà les gens du même secteur, qui vont avoir peut-être des particularités qui vont se correspondre et qui vont avoir des besoins de jours de garde qui vont pouvoir se compléter. On va prendre un exemple. Vous avez un emploi qui est du dimanche au mercredi, vous avez besoin de faire garder votre enfant sur cette période-là. Moi, l'idée, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va vous garder votre enfant sur cette période-là. Mais en échange, il faudrait que cette personne-là, si elle travaille du mercredi au samedi, par exemple, que vous lui rendiez service en sens inverse.
C'est un truc de service.
Mais c'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus facile, au final?
Puis, mettons-le, moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais pas, j'ai mes cours de gardiennage averti, j'ai 16-17 ans, puis ben je suis disponible pour garder des enfants. Est-ce que j'ai une place sur la plateforme pour pouvoir garder sans avoir d'enfant, oui?
Bien sûr, je vais proposer des pages gardien-gardienne aussi.
Puis c'est les nouveaux babillards, finalement.
Oui, c'est carrément ça, vraiment.
Moi, j'avais commencé c'est comme ça.
Avec les petits numéros que tu pouvais arracher, là.
C'est ça, c'est l'idée. La seule chose que j'hésite encore à faire par rapport à ça, c'est les petites gardiennes, vous savez, qui vont se proposer, qui sont quand même assez jeunes à partir de 13-14 ans. La seule chose sur laquelle je suis un petit peu en hésitation, c'est de proposer des photos de ces gardiennes. Ouais. Alors j'expliquerai.
L'aspect légal, l'aspect...
Je dirais que c'est même pas jusqu'à l'aspect légal, c'est juste pour la protection de ces petits gardiens-gardiennes.
Ah, mais je trouve que c'est bien fait, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de faire. Si... Il y a des rencontres qui peuvent se faire. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on parlait de babillard d'épicerie. Moi, j'avais une rencontre. Là, c'était pas « je prends ton numéro puis tu viens garder mes enfants ». Tu sais, il y avait une rencontre avec les enfants avant qu'on se lance dans une soirée de gardiennage pour être sûr que les parents qui me confiaient leur petit savaient j'étais qui, j'habitais où. Il y avait contact avec les parents souvent.
Je voyais sur les Spotted, puis là, c'est un peu plus plate. Puis en fait, ta plateforme est exceptionnelle pour ça parce que Spotted, t'as de tout et de rien. Là. Mais des petites qui proposaient leur service de gardiennage, les parents mettaient pas de photos. Mais ils faisaient le tri aussi eux-mêmes.
C'est bien.
Ouais, vous allez m'écrire, moi, en tant que parent de la future gardienne ou du futur gardien.
C'est bien. Alors moi, ce que j'ai prévu également, c'est de faire moi-même également une petite rencontre avec les parents.
Ah, OK. Donc, tu vas rester dans le processus.
Ah, moi, je reste dans le processus. Alors, moi, ce processus de A à Z, c'est mon bébé. C'est mon troisième enfant. Ce processus, mais clairement, je l'ai pensé comme si c'était que pour ma fille. C'est-à-dire que la sécurité, c'est pour ma fille que je la fais avant tout. Les enfants des autres seront là, oui. Mais je fais comme si c'était pour ma fille. Ma fille sera dans le réseau. Elle y sera également. Je ne vais pas prendre de risques avec ma fille. Et puis, je suis tellement humaine et puis j'aime tellement les enfants que je ne prendrai aucun risque avec un enfant.
Donc là, si ce matin, je veux me rendre sur la plateforme, là, au moment où on se parle, est-ce qu'elle est déjà disponible ou on la lance dans les prochaines minutes?
Non, ce n'est pas encore disponible.
Je vais m'organiser, je pense, pour te donner le Wi-Fi là, après l'entrevue. Là, fait qu'on va pouvoir faire scène dès qu'on a terminé. Si je me rends sur ta plateforme, je m'inscris, en fait, je me fais un profil de ce que je comprends.
Tout à fait. Alors, tu te fais un profil et à partir de là, moi, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, ça, c'est la phase 1. La phase 1, c'est publier l'annonce. La phase 2 que je suis en train de mettre en place et qui va découler au final de la phase 1, c'est d'arriver à trouver les correspondances entre parents. C'est les correspondances. Il y a aussi quelque chose qu'il faut que je précise, c'est que j'ai réussi à avoir des partenaires. Des partenaires qui vont aussi proposer de faire passer les cours de gardienne.
Ah, c'est bon, ça!
Et oui, parce que Si vos enfants veulent faire ça, moi, je préfère qu'ils aient le cours de garde. Parce que c'est pas parce que vous avez l'habitude de garder un enfant que vous allez savoir les bons gestes à avoir au bon moment s'il venait à y avoir un problème.
Mais c'est ça, le RCR,
c'est
en fait.
Ça, là, exactement.
C'est, à mon sens, tout le monde devrait l'avoir de base. Là, c'est toutes des choses qui ont des coûts, par exemple. Le site web, c'est un coût pour toi. S'il y a des cours qu'on donne, c'est un coût. Est-ce que le site en soi est gratuit pour les parents qui s'inscrivent ou il y a un frais à payer?
Alors, l'inscription est totalement gratuite. Là, en plus de ça, pour le lancement, on va faire un petit peu ça... Pour une offre de lancement, si vous voulez, on va le faire gratuitement pendant 2 mois. Déjà, l'inscription, elle restera toujours gratuite. La seule chose qui sera payante, ce sera pour débloquer les contacts. Pourquoi ? Parce que ça me permet, moi, d'avoir la main dessus et de vérifier à qui on s'adresse. Ça paraît bête, mais il y a non seulement le fait de faire fonctionner le site, mais il y a aussi la sécurité de chacun. Je ne peux pas communiquer les coordonnées de quelqu'un sans avoir vérifié à qui je l'ai communiqué. Donc, il y a des garde-fous. Ça, c'est les principaux garde-fous. Et honnêtement, ça va être pour une somme de moins de 5 $.
Ah, OK. C'est vraiment pas payé. Okay,
non,
c'est pas cher,
clairement. Hein. Moi, mon projet, c'est un projet d'amour. C'est vraiment pas un projet d'argent. Clairement, c'est pensé pour les familles, pas pour gagner de l'argent. Clairement, avec le temps que je passe dessus, sinon je serais ouh.
mais je trouve ça intéressant puis intelligent parce que il y a déjà des familles qui ont de la misère à se payer la garderie. Tu sais, c'est cher quand c'est pas subventionné. Puis là, l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus le choix non plus des garderies. Hein. Il y a une place, tu sautes dessus, là, sinon t'es mal pris.
Clairement.
Je trouve ça bien que ce soit pensé au niveau du paiement puis de la sécurité parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être les deux enjeux principaux, si moi j'étais parent, du moins, qui m'auraient dérangé.
Bien sûr. Bien sûr, et on va au-delà de ça, c'est que si vous voulez, là c'est la première partie, mais la deuxième partie, quand il va y avoir les échanges, je vais faire de manière à ce que ce soit totalement sécuritaire. Il va y avoir un questionnaire, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être vérifiées, c'est-à-dire que même sur les lieux d'habitation, s'il y a une piscine, s'il y a des animaux, il y a beaucoup de choses, et il va y avoir également une page de recommandation.
C'est bon, ça, pour savoir si la personne, ça va bien, si c'est comme on a sur plein de plateformes et d'applications.
C'est ça. On se fait livrer la nourriture, puis on peut coter la personne
qui peut mettre des étoiles.
C'est parfait. Ce sera exactement pareil. Ouais. Ce sera exactement ce que vous allez retrouver. Et puis, vous allez avoir également une page aussi sur laquelle, moi, je vais noter toutes les bonnes choses à faire lors d'une garde. C'est-à-dire, déjà, vérifier la pièce d'identité lors de l'arrivée. Mmh. On s'entend que c'est la première chose à faire. Ensuite, peut-être un petit, entre guillemets, questionnaire de santé, mais... Là où moi je vais insister, c'est que je suis une plateforme de mise en relation. Je ne gère pas de garde. Je ne suis pas rémunérée pour ça. C'est vraiment un service entre parents. Il n'y a aucun échange d'argent qui n'est fait à travers la plateforme. C'est super important parce que je ne veux pas faire ça. Parce que ce serait vraiment déjà aller contre les milieux familiaux, aller contre les CPE. Et ce serait la porte ouverte à beaucoup de choses qui seraient peut-être...
Des enjeux légaux là-dessus.
C'est ça.
Est-ce que tu te donnes, Flavie, le droit de refuser des candidatures de façon assez stricte, dans le sens où, hey, je sais que tu es une bonne personne, mais moi, sur ma plateforme, il y a antécédents judiciaires. Bon, tu disais que c'est pas tout le monde, mais il y a une revue des antécédents judiciaires. Je veux savoir ton nom, je veux tes coordonnées, je veux instaurer le lien de confiance. Donc, je vais être extrêmement stricte.
Alors, c'est déjà fait. J'ai déjà refusé une personne. Clairement,
oh, ouais, okay.
Oui. Là, avec toutes les inscriptions, j'ai une personne qui m'a contactée il y a quelques jours parce que justement, elle voulait s'inscrire. Et puis, de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est qu'une autre personne qui la connaissait a vu son nom apparaître sur la page et elle m'a alertée tout de suite en me disant « Attention, il y a des antécédents. »
Ah oh, oui, ok.
Alors, ce n'était pas des antécédents... Forcément, je ne sais pas comment dire ce que... Voilà, ce n'était pas des antécédents...
Criminels,
voilà, merci.
Mais ça pouvait être dérangeant quand même.
Voilà, mais je ne veux prendre aucun risque. Si, à tout moment, vous venez à voir quelqu'un sur cette plateforme, qui pour vous est un risque potentiel pour un enfant, c'est à signaler. Il y a une page de signalement. Là, ma première réaction a été faite de prendre toutes les informations, voir ce qu'il en était, avant bien sûr d'empêcher cette personne. Il faut aussi que je m'assure que ce soit vrai. On s'entend qu'il y a toujours deux sons dans
oui, absolument. Dans une... Mais la façon que tu l'expliques, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une plateforme, tu l'as dit, de mise en relation. Après ça, si moi, je suis parent, Pascal est parent, on se rencontre sur cette plateforme-là, on peut décider ensemble d'aller prendre une marche au parc avec nos enfants. Mm-hmm. Là,
mais c'est ça.
Puis s'assurer que... Puis si moi, je suis juste à l'aise, s'il y a des enfants à l'autre bord, je pense que rendu là, c'est à chaque parent, dans chaque situation, de décider ce qui plaît, ce qui plaît moins. Il y a déjà des textos qui entrent, puis ça ne me surprend pas. Il y a des gens qui disent, t'sais, on se demande déjà quoi faire, nous, pendant les semaines où il n'y a pas de camp cet été. La plateforme, est-ce qu'elle fonctionne? La réponse, c'est elle va fonctionner dans les prochaines minutes. On va faire le lancement avec Flavie dès qu'on termine l'entrevue. L'entrevue va aussi être disponible sur le belvd.fm. Là, si jamais vous ne savez pas de quoi on parle, on est avec Flavie qui a créé un projet sur lequel elle travaille depuis un peu plus d'un an qui s'appelle Mam Switch. MAMSWITCH. C'est mamswitch.com, j'imagine.
Exactement.
Le site web, donc vous allez pouvoir directement aller vous informer là. Puis si déjà ça vous intéresse, il y a une page Facebook, puis je voyais ce matin justement la communauté qui s'échangeait des messages, puis qui jasait ensemble, puis vous avez déjà fait, je pense, une connexion.
Alors, il y en a eu plus d'une, il y en a encore une qui a été faite cette nuit, parce que oui, je travaille la nuit aussi.
Oh, okay. Ça tient à cœur.
C'est le début d'un entrepreneur, là, ça va s'ajuster.
Je suis vraiment très, 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 très accaparée par ce projet, comme vous le direz, mon conjoint. Mais je suis vraiment quelqu'un d'investi et je veux vraiment que ça fonctionne. Parce que pour moi, au-delà de tout ce qui se passe avec les milieux familiaux, il n'y en a pas assez. Et puis, il y en a qui vont fermer parce qu'avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, c'est vraiment trouver des solutions. Et c'est de trouver des solutions pour toutes les familles.
C'est vraiment bénévole, de ce que je comprends.
Oui, moi, je ne suis pas rémunérée. Ouais, je ne suis pas rémunérée. La seule chose, voilà, c'est le fonctionnement du site, principalement. J'ai encore des rendez-vous aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est une grosse journée pour moi. J'ai des rendez-vous aussi avec des personnes de la région Chaudière-Appalaches pour m'aider à développer au maximum du potentiel de Mam Switch.
C'est ça, parce que là, tu nous disais tantôt qu'il y avait des organismes qui se joignaient à toi, qui t'aidaient.
C'est ça. Là, c'est en fait, si vous voulez, je suis en train de prendre un effet boule de neige. J'en ai les frissons, rien qu'à vous le dire. C'est juste incroyable parce que ça fait un an que j'ai commencé à le lancer officiellement, mais ça fait plus d'un an et demi, ça va faire même bientôt 2 ans que Mam Switch est né dans ma tête, au final.
Ah, je trouve ça tellement beau. Flavie, merci d'avoir pris le temps ce matin de partager ton histoire. Puis j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes, des questions peut-être que tu penses que les gens peuvent avoir auxquelles il faudrait répondre? Parce que moi, je ne suis pas parent. Fait que, tu sais, moi, il y a les enjeux principaux qu'on a traités sur la sécurité, entre autres, le prix. Mais il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas n'étant pas parent. Fait que je me dis peut-être qu'on peut répondre à des questions d'auditeurs, là.
Mais déjà, je vais te répondre à toi. Tu n'es pas parent, mais tu connais des parents qui sont dans ce problème-là. Donc c'est à toi aussi de partager ce que tu sais.
Bon.
Si tu partages, ça va me faire avancer. Ça va me faire avancer sur le nombre de personnes qui vont être sur Mam Switch, le nombre de personnes que je vais pouvoir mettre en relation. Et c'est ça qui est important, c'est mettre en relation. Plus il y a de personnes, plus il y a de relations possibles. Ça paraît bête, ça n'engage à rien. Et puis clairement, qu'est-ce qu'on a à perdre?
Oh, c'est gratuit, tu l'as dit, l'inscription.
Voilà.
Une question qui est entrée, puis on va terminer avec ça. Là, il y a un site web qu'on lance dans les prochaines minutes. Est-ce qu'il y a une application qui va venir? Il y a des gens qui se demandent s'il y a une app mobile qu'on va pouvoir utiliser.
Alors, clairement, je suis une petite maman qui a lancé cette idée et qui a développé son site Internet seule. Je n'ai aucune mes connaissances dans les sites Internet, tout ça. Donc, j'ai fait un site Internet pour le lancement. Maintenant, j'espère une évolution. Mais pour ça, va falloir que quelqu'un m'aide. Hein.
Bon, tu crées des contacts pour les parents, j'ai envie de dire, créons des contacts pour Flavie.
Voilà.
Si vous connaissez quelqu'un, si vous avez envie d'aider dans le projet, 88-971-102 texto, puis je te transmettrai les textos qui sont entrés. Flavie Alamand, un plaisir de t'avoir reçu ce matin, puis félicitations pour ce projet-là. Je trouve ça vraiment intéressant, j'ai le sentiment que ça peut aider énormément de gens.
Ben, écoutez, j'y crois vraiment et j'espère que les parents vont y croire parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et puis allons-y. Je publie, vous publiez, vous répondez et c'est comme ça qu'on y arrivera.
Plateforme de Mam Switch qui s'en vient,
oui.
Qui sera mise en ligne prochainement. Site web qui, en fait, vous permet d'être en connexion, de vous mettre en contact pour la garde d'enfants avec un parallèle de sécurité, bon, qui est dans les priorités. Puis ce que ça me rappelle, Audrey, c'est un genre de réseau enfants secours qu'on voyait dans le temps. Bon, tu sais, c'est
oui,
ça, c'était pas le même principe. Oui, avec les
collants d'un fenêtre. Ben oui, ben oui.
Mais de l'entraide entre voisins.
Oui,
puis ça
absolument.
Va probablement à amener à se connaître plus.
Oui.
Puis ça, je pense, c'est un parallèle intéressant de ce que Flavie a créé aussi avec Mam Switch. On va suivre ça. Merci, Audrey.
Un plaisir.
Merci, Flavie.
Merci de m'avoir reçu.
Vous êtes dans le Point de Max. On revient dans un instant.
Le Point de Max. À Boulevard 102.
Le Point de Max qui tire vers la fin, ben, je vous accompagnais puis je vais le faire aussi demain parce que Max revient jeudi. Mon nom est Pascal, vous êtes toujours à Boulevard 102.1 puis il y a un peu de paperasse à faire. On va la faire ensemble parce que vous avez été nombreux à nous signaler qu'il y avait un camion qui avait versé. Bon, comme versé, mais pas au complet, là. Il n'a pas tombé à l'eau non plus, il y en a qui s'inquiétaient. Mais c'est un camion qui s'était renversé sous la force des rafales de vent. Rafales qui sont assez violentes. Là. On a encore des gens qui nous textent au 88-971-1021 que dans plusieurs secteurs, un de la ville, ça continue, mais surtout de la province. Entre autres, salut à un de nos auditeurs qui est camionneur qui disait « Ouh, je suis à Bécomo, puis c'est quelque chose aujourd'hui. » Mais oui, sur le pont Pierre-Laporte, à 9h45, il y a la remorque d'un camion qui était dans la voie de gauche direction sud qui s'est renversée, donc est allée s'accoter sur le terre-plein du milieu, mais en même temps, elle était dans la voie de droite en direction nord parce que ça a comme entravé aussi la voie de droite. Fait que finalement, il y a bien des gens qui ont fait le saut. Heureusement, aucun blessé, mais le temps de remettre cette remorque-là, ce camion-là, sur toutes ses roues, de la tasser, essayer de faire aucun déversement de substances dangereuses, de demander aux automobilistes d'être patients, que ce soit remorqué, bien, ça a pris du temps. Alors, c'est sûr qu'il faut faire très attention en ce moment sur nos artères. La circulation est actuellement au rouge foncé encore sur les cartes du MTQ dans les deux directions au niveau du pont. Il y a d'autres choses à signaler, puis ça, c'est grâce à vous, les auditeurs. Entre autres, boulevard Guillaume-Couture s'est fermé direction ouest vers Lévis au centre, à la hauteur de Saint-Omer, en face de Desjardins Assurance, même fermé dans les deux directions. Ensuite, on a quelqu'un d'autre qui nous disait qu'il y avait... Ça, c'est Guillaume Couture aussi, excusez-moi. Une opération sur le pont Pierre-Laporte. Donc, il y avait le camion, mais en ce moment, c'est ça. Il y aurait des gens qui auraient été un petit peu trop heureux puis qu'il fallait qu'ils freinent à un moment ou à un autre, un genre de petit accrochage. Structure aussi, dans le coin du feu de circulation de coin Sainte-Foy-Robert-Bourassa. C'est hors service, la structure pour le panneau de circulation qui est endommagée. Alors, soyez prudents. Essayons de faire attention aux piétons et quand il n'y a pas de feu de circulation, ben c'est un stop, on le rappelle. Dans l'actualité, beaucoup de choses aujourd'hui. Les pannes électriques, on peut en reparler.
près de 280 000 adresses touchées partout au Québec. Capitale-Nationale, ça n'en fait pas exception. On est à 24 000, près de 25 000 foyers sans électricité. Chaudière-Appalaches, on est autour de 12 000. Sinon, partout ailleurs, pas mal d'impact. Et si je vois sur notre territoire, c'est Sainte-Foy, la Jacques-Cartier qui est très touchée. Portneuf, c'est fort touché aussi. Et ça devrait se rétablir d'ici la fin de la journée. C'est ce que la porte-parole d'Hydro-Québec nous a dit un peu plus tôt à l'émission. Il y a également une arrestation à signaler. C'est un ancien député du Bloc québécois qui a été arrêté à Québec, à Saint-Augustin, ce matin, pour agression sexuelle en position d'autorité. Député du Bloc québécois entre 2008 à 2011, il s'appelle Pascal-Pierre Payé. Il a maintenant 47 ans. C'est un enseignant de formation. Et, bon, il y a eu enquête en matière de crimes sexuels. Ça implique des mineurs. Et il s'est fait arrêter ce matin. Il devrait comparaître au palais de justice de Québec cet après-midi. Chef d'accusation d'agression sexuelle, dont une en position d'autorité et de contact sexuel. Les centres de services scolaires de la capitale ont confirmé par ailleurs que l'ancien élu de la circonscription de Louis Hébert au fédéral est suspendu depuis plus d'un mois parce qu'il y avait une troublante histoire qui roulait. Deux événements, l'un en 2006, entre le 1er janvier et le 25 juin, et un deuxième événement, cette fois-ci plus près de cette année, en août 2024. Et la présumée victime qu'on a appelée Mathis dans le Journal de Québec s'est livrée, entrevue exclusive, dans sa version des faits. Mathis, c'est un nom pour camoufler son prénom. Alors, on veut protéger son identité. Il avait 14 ans à l'époque, en 2024, et il soutient qu'il y a eu un match sur l'application de rencontre Gay Grindr avec l'ex-député. Suite à quoi, ils ont commencé à s'écrire, ils se trouvaient beaux, ils ont envoyé des photos et ils disaient qu'il était professeur au secondaire dans la trentaine. Et là, lui, le jeune disait qu'il avait 17 ans. On a précisé que Payé ne travaillait pas dans la même école et donc il n'était pas en position d'autorité dans ce cas-là. Mais de fil en aiguille, les deux qui se jasaient ont convenu de se rencontrer une première fois en public. Il ne s'est rien passé. Les jours suivants, deuxième rencontre. Cette fois-ci, Pascal-Pierre Payé serait allé chercher Mathis, non fictif, chez lui à bord de sa Jeep. Et là, ils ont jasé, etc. Et ils ont proposé des contacts sexuels. Payé serait allé dans un boisé de la Couronne-Nord de Québec à l'abri des regards. L'homme de 45 ans aurait demandé à voir la carte d'identité de Mathis, mais il aurait prétendu l'avoir laissé chez ses parents. Donc, il y a une couple de choses à éclairer dans le dossier, mais sachez que ça a malheureusement mené à une arrestation. Là, on dit malheureusement. On s'entend, ça s'en va en cours. Peut-être pas malheureux quand on est coupable, mais là, pour l'instant, c'est des accusations d'agression sexuelle envers cet ancien député du Bloc arrêté ce matin. Je vous rappelle, Pascal-Pierre Payé, 47 ans. Ce trafic de stupéfiants à Québec, il y a aussi vaste réseau qui a été attaqué par les policiers, autant de la Sûreté du Québec que de la police ici à Québec. Un réseau lié aux Hells Angels visé par l'opération. Alors, on est dans une opération qui est encore en cours au moment où l'on se parle. On a peu d'informations sur qui a été arrêté, les perquisitions qui s'en sont suivies. On va surveiller ça dans l'émission. On en jase et certainement dans le retour. Toujours pendant l'émission, des missions importantes au niveau des États-Unis, un haut responsable américain qui a démissionné, il est opposé à la guerre en Iran. Alors ça vient de se passer. Donald Trump assure que les États-Unis n'ont pas besoin d'aide de l'OTAN, vous vous en souvenez. Mais il y en a un qui est vraiment pas il n'est pas d'accord avec comment Donald Trump, fait les choses en ce moment. Et il a adressé une lettre au président, c'est Joe Kent. Et il souligne le changement dans la politique étrangère de Donald Trump. Ça serait éloigné de la politique America First, selon lui, et ça ne fait plus son affaire. Alors, il a décidé de démissionner. Il n'était pas en accord, puis il dit « L'Iran n'a rien fait aux États-Unis de très concret » pour être encore en conflit, surtout terrestre et même dans les airs et tout ça. Donc, on n'aurait jamais dû aller frapper contre l'Iran. C'est une affaire envers Israël, selon lui. On reçoit à l'instant Mathias Turcotte qui vient d'entrer en studio. Parce que Mathias, t'as suivi un point de presse ce matin, entre autres du député de la CAQ, Samuel Poulain, parce que lui avait décidé de s'attaquer au marché du gin et des prêts à boire, puis il disait... Je peux pas croire qu'on vende juste ça à la SAQ. Il faut pas que ce soit un monopole.
Puis ça, c'est une mesure qui a annoncé il y a de ça plusieurs mois. Ben, en fait, un mois environ, que des prêts à boire allaient être disponibles, des prêts à boire à base de vodka, gin et tout, allaient être disponibles en épicerie. Puis là, on voit que Samuel Poulain, c'est quand même un de ses chevaux. Revoir la structure de la vente d'alcool au Québec, on sait, c'est excessivement compliqué pour beaucoup de producteurs. Puis c'est ça qu'il a annoncé aujourd'hui. En gros, on revoit le cadre légal de la vente et la production d'alcool au grand complet au Québec. On maintient quand même la Société des alcools du Québec. Mais il se pourrait que dans le processus et tout, ben on change tout ça. Je vous laisse entendre Samuel Poulain.
La SAQ est là pour demeurer. Évidemment, la SAQ sert bien une industrie qui leur permet d'avoir un certain volume, un certain nombre de commandes, d'avoir accès à un grand réseau. Alors, la SAQ sert aussi l'industrie des alcools au Québec. Mais est-ce que dans le processus administratif et réglementaire, il y a des allègements ou des modifications qui peuvent être faits? La réponse est oui.
Est-ce qu'il a parlé du fait qu'il voulait plus de concurrence? Est-ce qu'il a parlé de gens mécontents? Ou il en dirait qu'il évite tout le temps le sujet du pourquoi il est allé là.
Bien, la raison pourquoi il est allé là, c'est ce qui explique, c'est que présentement, on a comme plusieurs lois différentes qui datent de longtemps, là, des dizaines d'années au Québec, qui régissent par rapport à la vente et à la production d'alcool. Mais c'est comme séparé en plein de lois. Puis c'est excessivement compliqué pour les producteurs d'alcool, les distillateurs partout à travers le Québec, de s'y retrouver à travers ça. On sait comme pas quel permis demander. Certaines personnes peuvent demander un permis, puis d'autres non. Donc lui, il s'est dit, on va faire des consultations à partir du printemps. On a mis deux personnes à la tête d'un comité pour revoir la façon législative de la vente d'alcool au Québec. On parle de Diane Mieux, une ancienne parlementaire et administratrice de société, et de France Dionne, qui est directrice générale exécutive de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Puis ces deux personnes-là vont faire des consultations à partir de ce printemps pour justement, l'objectif numéro un est de faciliter le cadre légal pour les producteurs. Et de regrouper toutes ces lois-là en une seule loi qui peut facilement dicter comment on voit notre environnement d'alcool au Québec.
C'est quand même vraiment intéressant parce que tu dis combien de fois on pourrait appliquer ce processus-là, soit de revoir à quel point on a trop de règlements qui sont incompréhensibles, qu'on se sent dans la maison des fous, il faut aller chercher tel permis pour s'exercer en tant que commerce ou encore agent d'affaires. Si ça commence avec ce qui est un petit peu plus petit, peut-être que c'est un peu plus petit au niveau de la régie des alcools puis de la SAC, bien, on aura peut-être un processus à faire dans d'autres enjeux. Comme là, c'est la concurrence au niveau de l'alcool, c'est pour permettre aux distillateurs et à d'autres de rentrer dans le jeu parce qu'ils ont leurs boissons en SAQ qui sont souvent faits avec, bon, vodka ou gin et autres, puis en dépendance avec du malt.
Oui.
Ils sont obligés de refaire une autre version de leurs produits pour la vente dans les dépanneurs. Puis c'est là où ça cause un peu de problème aussi.
Puis la lourdeur administrative est excessivement lourde pour les producteurs du Québec. Puis c'est ça qu'on vient dénoncer du côté de Samuel Poulain. On dit même les personnes qui mettent en place ce cadre légal, les législateurs, ceux qui doivent l'appliquer, des
ils
fois ont de la
pas.
Difficulté à comprendre le règlement. Fait qu'il dit, ça, selon ses dires, ces règlements-là se basent sur des assises qui datent de plus de 100 ans, là, surtout héritées de la période de la prohibition. Donc on dit, c'est le temps de revoir ça, c'est le temps de se renouveler. Qu'est-ce qui va être présent dans cette nouvelle loi-là qu'on va seulement avoir à l'automne ou au printemps, dépendamment du gouvernement qui va succéder? Parce que le rapport va être prêt le 24 juin. Fait que le gouvernement en place, présentement, le gouvernement de la CAQ, va pas avoir le temps de bâtir cette nouvelle loi-là. La question, est-ce que, par exemple, si le PQ arrive au pouvoir ou le Parti libéral arrive au pouvoir, ils vont vouloir aller de l'avant avec ça? Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut déjà commencer à s'imaginer. Par exemple, je vous parlais des prêts à boire tout à l'heure. Il a permis la vente de prêts à boire en dépanneur et en épicerie. Cette vente-là va être permise. Par contre, la SAQ continue à recevoir une cote sur tout ce qui va être vendu en dépanneur et épicerie. On ne sait pas encore comment tout ça va s'orchestrer.
On dirait que c'est comme les dépanneurs vont s'approvisionner au sein de la SAC.
Ben, c'est ça.
Donc, la SAC se garde une cote, puis c'est elle qui va aller chercher chez les entrepreneurs, bon, les boissons en question, les prêts à boire.
Fait que là, est-ce que ça va être possible de mettre en place un environnement où que le prix en épicerie et en dépanneur va être concurrent avec le prix à la SAQ? Peut-être qu'on va dire on revoit complètement ce processus-là que la SAQ est grossiste. Ça se pourrait. On garde la SAQ, on garde un monopole pour tout ce qui est alcool fort et tout. Mais tout ce qui est prêt à boire, justement, ben les dépanneurs, les épiceries reçoivent directement leurs produits et la SAQ ne prend plus de cotes. Ça peut être une option à envisager.
On est encore en exercice dans tout ça, mais on continue d'aller de l'avant. Puis Samuel Poulain, continuait de taper sur la tête de la SAQ en disant « C'est correct, vous existez, mais on va essayer de réajuster les choses. » Une nouvelle qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, puis on va continuer de jaser du moins jusqu'au 21 mars. Puis après, on va jaser de tous les dommages collatéraux. C'est ce qui va changer dans la circulation avec les travaux pour le tramway. Donc, les parcours d'autobus seront modifiés, les détours, les sens uniques, ça va être ajouté. Ça va être un chantier officiellement à partir d'en fin de semaine. Donc, les parcours d'autobus, il va falloir vérifier où vous passiez avant. Il va falloir aussi surveiller directement sur les avis de la Ville de Québec s'il n'y a pas des voies que vous étiez habitué de prendre puis finalement sont rendues des sens uniques. Ça crée beaucoup de confusion, d'autant plus que le maire Bruno Marchand est du côté d'Ottawa en ce moment. Bien là, ça crée des critiques. Il est allé avec une panoplie de personnes qui auraient dû gérer cette semaine-ci avec tout ce qui se préparait en termes de travaux du tramway. C'est une grosse journée.
Oui, puis le dossier du tramway revient fort. En fait, reste toujours fort dans l'actualité. C'est quand même fou à quel point il se renouvelle toujours, ce dossier-là. Puis ce qui fait jaser aussi, dernièrement, c'est le dossier des arbres. La fameuse coupe d'arbres qui déplaît à plusieurs personnes en disant que le financement du tramway n'est pas complété. Puis là, Sylvain Junod, le maire de Saint-Augustin, est sorti en disant « c'est inacceptable qu'on coupe des arbres si le financement n'est pas finalisé ».
Lettre ouverte dans les médias, il était fâché. Hier, on l'a eu en entrevue sur l'heure du midi. Il était moins fâché, puis il se disait « pour le projet de tramway », mais il était moins fâché après que Bruno Marchand, il a comme dit « peux-tu t'occuper de tes affaires, toi, mon maudit ?»
Bien, il lui a dit, puis pas à peu près, il l'a traité d'apôtre de l'inertie. Ben oui. Il n'a pas pesé ses mots hier, le maire Bruno Marchand. Puis là, aujourd'hui, on s'est fait transmettre un communiqué par la part de l'administration Marchand, qui répond un peu plus poliment, j'ai envie de dire, aux affirmations de Sylvain Junod, comme quoi le financement du tramway n'est pas complété. On dit que c'est faux, que le gouvernement du Québec va pallier si jamais le fédéral n'est pas au rendez-vous, que tout est beau, puis que le gouvernement du Québec confirme à la Ville de Québec que tout est beau côté financement. Hier, j'ai eu la chance d'aller dans un scrum avec Jean-François Simard, qui est le ministre de la Capitale-Nationale. On lui a posé la question. Le financement du tramway, quand Bruno Marchand dit que c'est finalisé, est-ce qu'il dit vrai? Je vous laisse entendre sa réponse.
Ah, la clip semble vide, mon ami Mathias.
La clip semble... Je l'ai fait jouer hier, pourtant.
On attend ce financement. Moi, j'ai une assurance morale que ce financement arrivera. Moi, j'ai confiance que nous allons réunir toutes les conditions gagnantes, y compris les conditions financières, afin de mettre le projet du tramway sur les bonnes voies.
Est-ce qu'on la fasse réentendre?
On peut la faire réentendre. On peut la faire réentendre.
On attend ce financement. Moi, j'ai bon espoir. J'ai une assurance morale que ce financement arrivera. Moi, j'ai confiance que nous allons réunir toutes les conditions gagnantes, y compris les conditions financières, afin de mettre le projet du tramway sur les bonnes voies.
Il y a encore de l'hésitation. C'est ça. Moi, ou...
Êtes-vous convaincu?
Non, pas du tout. Même lui, il l'est pas. Il a tendance à être encouragé par la chose.
Mais... Puis Martel, encore une fois, faut le financement à 40 % du fédéral. Puis je comprends en même temps sa position, puis je l'ai dit hier, je vais le répéter. Si le provincial arrive puis dit ouvertement aux médias, hey, si jamais le fédéral n'est pas au rendez-vous, savez-vous quoi, on va pallier, CDPQ Infra va pallier, on va payer de toute façon le tramway. Le fédéral regarderait le provincial puis dirait, c'est ça, si vous êtes correct sans nous...
Payez-le.
C'est ça, occupez-vous-en. Fait que je comprends cette position-là.
Fait que la nuance est importante là-dedans. On peut pas tout de suite clamer qu'on n'a pas le financement, puis le tramway n'est pas sûr d'être fait. Fait que c'est quoi ces maudits travaux préparatoires-là qui vont défoncer notre ville en sens unique, en parcours d'autobus? Il n'y a plus de René Lévesque, un bout, plus de Grande Allée. Là, on ne sait plus par où passer. Tout ça, là, tout le calvaire qu'on va vivre dès la semaine prochaine, là, il risque d'être là pour une raison, qui est le tramway malgré tout.
Mais effectivement, puis c'est un jeu intéressant, veux pas, parce qu'on a comme un discours différent de plein de personnes, parce que Bruno Marchand n'a pas le choix de marteler son message aussi, comme quoi le financement est clarifié, mais pendant ce temps-là, Le gouvernement du Québec semble pas sûr. Qui croire au final? Puis ouais. C'est pour ça qu'il y a un doute qui est semé dans la population, puis qu'on a un parti d'opposition comme Stéphane Lachance qui prend ce doute-là, puis qu'à chaque fois qu'un élu provincial sort puis donne une réponse pas claire comme ça...
On saute ben, là-dessus.
Ben, mais lui, ça sûr. Lui donne du jus.
T'sais, c'est le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, pour la CAQ. Puis là, lui, il dit « Ah, oh, ouais, c'est pas ça, mais ça devrait, parce qu'il connaît les jeux de coulisses. » Puis il se dit « Le fédéral n'a pas encore mis l'enveloppe sur la table, mais on aimerait ça qu'il mette le 40 %. Puis si on dit qu'on est capable de se débrouiller sans lui, il ne le mettra pas. »
C'est ça.
Mais ça reste un problème que ce ne soit pas bouclé en ce moment. Puis je comprends Bruno Marchand, politiquement parlant, il ne peut pas dire « Ça ne marche pas, le tramway n'est pas sûr. » Parce que lui, il est sûr que ça va se faire. Puis il ne veut pas perdre ses prochaines élections s'il se représente, mais il ne peut pas. Mais quand même, dans le sens où... On n'est pas en élection, sauf que l'adhésion à ce que dit Bruno Marchand est déjà difficile sur le projet. On ne peut pas en ajouter une couche. Fait qu'il ne veut pas continuer d'aller de l'avant dans des, en n'étant pas certain de le faire. Il est certain. Mais ça, prends tout ça, là. Puis si vous êtes confus dans ce qu'on dit, là, c'est normal. Puis il est là le problème. Le problème, c'est que ça n'a pas encore été ficelé. On écœurait Régis Labombe dans le temps en disant que c'est un projet de napkin de coin de table pendant un dîner au restaurant. Ça ressemble encore à être quelque chose qui n'est pas totalement ficelé.
Puis le gros problème là-dedans, c'est que le provincial puis le fédéral ne sont pas capables de s'entendre parce que de l'argent en transport en commun, on en a disponible présentement au fédéral qui est attitré à la province de Québec. C'est qu'encore une fois, comme dans plusieurs dossiers, la province et le fédéral ne sont pas capables de s'entendre pour recevoir cet argent-là.
Mathias Turcotte, merci beaucoup. Merci pour tes clips incendiaires parfois ou tes clips qui nous éclairent sur d'autres dossiers. Seras-tu là à la classique annuelle de Boulevard jeudi?
Bien sûr.
T'es-tu à glace?
Oui, je suis en uniforme.
Ah oui, t'as la coupe NHL, fait que tu peux bien jouer. Là. Mais ça vous tente de venir, c'est jeudi, donc à 19h au Centre de glace Intact Assurance. C'est la classique annuelle. On est tellement contents de la ramener. C'est carrément notre version de la populaire Winter Classic où la gang d'animateurs, les collègues, puis ceux même qui sont plus ou moins en shape, là, jouent contre une gang d'auditeurs. Et là, cette année, les adversaires, c'est les, les essoufflés de Boulevard, notre gang, qui va affronter les pelleteux de Bellechasse, une gang de chums qui joue à Saint-Damien, supposément un peu overweight, qui, on espère, carbure aux anti-inflammatoires pour être capable de nous battre. Mais bon, c'est la classique annuelle de Boulevard. Soyez là ce jeudi, on vous invite, c'est gratuit à 19h au Centre de glace Intact Assurance. Puis là, vous devez être aussi, c'est toujours, sur les ondes de Boulevard 101. Dans un instant, c'est On en jase qui commence dans votre radio. On vous accompagne aujourd'hui.